Ok, bah donc on va reprendre la soirée candidat.fr. Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez eu une présentation par Jeanne et Marie de la plateforme candidat.fr, de la campagne, à la fois sur la partie présidentielle, le questionnaire qui est en cours de finalisation, et sur la partie législative, avec la plateforme que notre développeur acharné mettra en ligne ce soir ou demain matin. Pour l'instant, il écoute sagement là-bas. Et donc, dans cette deuxième partie, nous allons avoir un échange, un débat, avec des représentants de candidats ou de partis, là, sur le fond. Alors, on ne va pas aborder l'ensemble des questions du questionnaire candidat.fr, ce n'est pas l'objectif, vu qu'évidemment, les équipes ont quelques semaines quand même pour y répondre. On va simplement aborder quelques thématiques pour voir un petit peu la vision un petit peu des différents partis, des différents candidats, leurs priorités. On va essayer de tenir 5 thématiques jusqu'à 22h. Bon, si on n'a pas le temps de toutes les voir, ce n'est pas très grave. On va parler d'administration électronique, d'éducation, des droits des consommateurs, international, et puis d'entreprise et innovation. Donc je rappelle qu'il y a un flux audio, donc pour ceux qui ne sont pas là et donc qui gazouillent, peuvent dire que sur audio.april.org, il y a une diffusion audio. Le mot-clic ou hashtag, c'est candidat.fr tout attaché. Et il y aura une vidéo qui sera disponible ultérieurement. Il n'y a pas de diffusion vidéo en direct, tant qu'il n'y a pas de format ouvert possible ici. Mais ça sera bientôt le cas, on va y travailler avec la cantine. Alors, je vais vous présenter mes intervenants, donc en commençant de gauche à droite. Marrant, vous êtes bien placés, en fait. Hein. Donc, Sophie Duvauchel, qui est co-responsable de la commission numérique du Parti de gauche, et membre du Front numérique, Front de gauche numérique. Frédéric Nau, qui est référent thématique aux libertés numériques pour la campagne d'Eva Joly. Fleur Pellerin, qui est responsable du pôle société et économie numérique auprès de François Hollande. En plus, vous êtes dans l'ordre de ma liste, en fait. Vous êtes vraiment pratique, quoi. Jean-Baptiste Raffano, qui est chargé de mission pour le numérique pour Nicolas Dupont-Aignan. Benjamin Lancard, qui est président des Jeunes Populaires et secrétaire national à la nouvelle économie à l'UMP. Et ma collègue Jeanne Tadeuse, qui est en charge des affaires publiques à l'April et qui sera chargée, le cas échéant, de pousser les intervenants dans leur retranchement, dans des précisions. Alors, on va aborder donc un certain nombre de thématiques. Donc la forme du débat est très ouverte, chers amis intervenants. Il n'y a pas de répartition des rôles, des tours de parole. Par contre, je vais vous demander effectivement d'être relativement succinct, parce qu'on a 5 thématiques, donc de vous limiter sur vos interventions, donc présenter éventuellement sur la thématique votre vision, vos priorités. Évidemment, il y a un échange entre vous, puis on prendra aussi à chaque fois 2 ou 3 questions de la salle. Alors éventuellement, ceux qui gazouillent sur Internet envoient les questions et puis on prendra les questions les plus pertinentes. Donc on va commencer par le premier sujet, qui est celui de l'administration électronique et l'usage du logiciel libre par les administrations. Tout à l'heure, Marie Duponchel disait que ça se développait de plus en plus, la place du logiciel libre dans l'administration, qu'il y avait des décisions récentes de justice, notamment sur les marchés publics en faveur du logiciel libre, mais que d'un autre côté, il y a aussi des marchés publics qui de plus en plus continuent à demander explicitement des logiciels propriétaires, des marques excluant de facto le logiciel libre. Il y a aussi la question évidemment de savoir les logiciels développés par l'administration doivent-ils être diffusés en logiciel libre, sous quelle licence, la question des formats ouverts. Donc voilà, un certain nombre de sujets sur cette première, et puis quels acteurs aussi pour porter cette administration électronique, à la fois au niveau local, collectivité, mais peut-être aussi au niveau national. On sait qu'on a un ministre en charge notamment de l'économie numérique. Est-ce qu'il faut un ministre à part entière sur le numérique? Est-ce qu'il faut que ce soit transversal? Donc voilà, l'administration électronique, usage du logiciel libre. Alors qui veut commencer? Qui se sent d'attaquer cette question? Soyons galants. Je crois que Benjamin Lancard, lors de le dernier débat que vous avez eu avec Sophie Duvauchel, il y avait eu des petits éclats, mais voilà. On va passer par Sophie Duvauchel, du Front de gauche.
Bonsoir. Donc, en ce qui concerne l'administration, effectivement, c'est un très gros morceau pour le logiciel libre, puisque aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en termes de logiciel libre dans l'administration et que c'est véritablement dommage pour un certain nombre de raisons. Premièrement, je pense qu'il est absolument primordial que l'État, les collectivités, les administrations, les services publics utilisent des logiciels libres et même uniquement des logiciels libres, et ce pour un certain nombre de raisons. La première raison qui est évidente et qui n'est pas la plus importante, mais tout de même, c'est que d'abord les licences pour les logiciels déjà développés sont gratuites, mais si je dis que ce n'est pas important, c'est que tout d'abord Pour moi, les arguments philosophiques pour lesquels l'État doit promouvoir les logiciels libres sont beaucoup plus importants. Et par ailleurs, les logiciels dont tous ces acteurs publics ont besoin ne sont pas forcément déjà existants et même pour la majorité n'existent pas. Je prends le cas de l'éducation nationale, hein, puisque moi j'enseigne dans un lycée. Je vois bien que les logiciels dont on a besoin pour que le proviseur adjoint fasse les emplois du temps ou qu'on rentre les notes et les appréciations pour les bulletins des élèves ne sont pas des logiciels libres, qu'il n'en existe pas de libres sur le marché. Donc il faudrait bien évidemment, si on décidait que ces choses-là devraient être libres, commander des logiciels pratiquement à partir de zéro. Comment y arriver ? Nous pensons qu'il faudrait des informaticiens fonctionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a, mais très peu, et qui ont très peu de missions de développement logiciel. Or, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. C'est en plus quelque chose où la France a la possibilité également de capitaliser sur son enseignement de l'informatique, qui, en tout cas dans le supérieur, est performant. Pour terminer sur quels acteurs il faudrait pour mettre en place ces choses-là, nous avons, je crois comme tout le monde, toutes les peines du monde à répondre à cette question pour l'instant, parce qu'effectivement le numérique est une question très transversale. En ce qui concerne par contre ce point très particulier, et là s'il s'agit de rentrer dans les détails, je vais donner mon opinion personnelle, puisqu'on n'a pas forcément discuté en commun de choses aussi précises que ça, je pense qu'il faudrait un service interministériel national de développement, et y compris d'écriture des cahiers des charges, qui soit à la fois interministériel, interadministration, et qui soit également à la disposition des collectivités et des entreprises publiques, puisqu'il y a énormément de choses à faire.
Merci Sophie pour cette précision et d'avoir tenu les délais. Est-ce que quelqu'un veut réagir déjà donc sur cette proposition, en tout cas ce positionnement d'avoir que des logiciels libres dans l'administration, dans la commande publique ?
Pardon, j'ai juste oublié un truc. Il faut également l'e-administration, tout ce qui concerne les services qui sont disponibles sur Internet pour les citoyens, qu'il est parfaitement inadmissible que sous certains systèmes ça ne fonctionne pas. Par exemple, le système des élections professionnelles dans l'éducation nationale qui ne fonctionnait pas sous Linux, c'est contraire au référentiel général d'interopérabilité et même à toutes les notions d'accessibilité, même si l'accessibilité, on considère que c'est pour les personnes handicapées, mais il se trouve que dans le texte, ce n'est pas spécifiquement écrit. Et ça devrait fonctionner sous Linux. C'est parfaitement inadmissible.
Alors, ça devrait fonctionner sur tout système libre, donc nos Linux. Et effectivement, l'accessibilité concerne aussi les personnes qui ne sont effectivement pas handicapées. Ça facilite quand même l'accès à l'information. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette partie-là ? Peut-être Fleur, peut-être, sinon.
Ouais. Oui, donc moi, je partage aussi l'avis selon lequel il faut absolument développer l'usage et le recours aux logiciels libres dans l'administration, pour des raisons qui ne sont pas uniquement philosophiques, pour des raisons qui sont des raisons de maîtrise de la dépense publique, parce qu'un certain nombre d'études ont été faites qui montrent que l'administration peut optimiser ses coûts en ayant recours à des solutions libres, interopérables et avec des standards ouverts. Maintenant, il y a une réalité qui s'appelle le code des marchés publics. Vous faisiez référence à des récentes jurisprudences. On a une du 30 septembre 2011, je crois, du Conseil d'État, qui dit effectivement, qui fait bien la distinction entre les marchés de fourniture et les marchés de services. Effectivement, pour les marchés de services, on peut recourir assez facilement à des solutions s'appuyant sur un développement à partir de logiciels libres. En revanche, pour des marchés de fourniture, c'est plus compliqué d'exclure des acteurs d'un appel d'offres. Et si on fait un appel d'offres qui ne vise que des solutions libres, ça peut exclure un certain nombre d'acteurs de ces marchés. Donc je suis plutôt favorable, au moins dans un premier temps, à ce que l'administration mette en avant la notion de standard ouvert, qui pour le coup n'est pas excluante, parce que Microsoft peut très bien concourir en ouvrant ses codes sources, hein, enfin en donnant ses codes sources, mais ça permet au moins à réglementation constante d'être conforme au droit. Alors, pour tout ce qui concerne l'e-administration, je pense que à l'heure de l'open data, il est absolument nécessaire d'avoir des formats ouverts. à la fin on va parler d'innovation tout à l'heure, mais pour créer justement des gisements d'innovation et permettre à des entreprises qui travaillent à partir de données publiques de réutiliser dans le cadre de leur activité ces formats. Donc moi je me félicite de la démarche, même quoique un peu tardive, d'ouverture des données publiques, mais je regrette qu'elle ne se fasse pas sous des formats qui soient tous des standards ouverts. Donc je pense qu'il y a du progrès, il y a de la marge en la matière et qu'il faudra absolument développer cet effort. Et pour tout ce qui concerne l'éducation, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a de grandes marges de progrès en matière d'ouverture des standards pour tout ce qui concerne l'innovation pédagogique, notamment pour permettre aux enseignants de créer des référentiels pédagogiques ou de l'innovation pédagogique via des formats ouverts, un peu à l'image de ce qui a été fait au Brésil où l'État met à la disposition des collectivités publiques un portail de logiciels libres pour des fonctions de base de l'administration, des systèmes d'information, et où les collectivités publiques, avant de passer un marché, doivent regarder s'il n'y a pas un logiciel qui correspond à leurs besoins, qu'elles peuvent développer pour avoir des solutions techniques. Donc je pense aussi que c'est intéressant d'avoir effectivement des développeurs au sein de la fonction publique qui puissent avoir une approche métier dans les ministères pour développer des solutions à partir de solutions libres.
Merci. Je crois... Jean-Baptiste ?
Non, je voulais simplement apporter une nuance par rapport à l'utilisation des logiciels d'administration. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des logiciels utilisés par l'administration sont ce qu'on appelle des applications métiers. C'est-à-dire que certes, installer OpenOffice, installer Linux sur ordinateur, l'administration, c'est une chose qui est faisable et qui est déjà largement faite. Mais beaucoup, vous parliez du logiciel de notes pour l'éducation nationale, beaucoup de ces logiciels, que ce soit dans la gendarmerie, dans le trésor, au trésor public, etc., beaucoup de ces logiciels sont des logiciels métiers qui sont spécifiquement développés pour les usages de ces administrations. Et là, effectivement, il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont basés sur des technologies qui sont souvent dépassées. Les utilisateurs, je pense, pourront le dire. Mais je ne pense pas qu'en même temps que la réponse soit de dire qu'on va nationaliser, entre quelque sorte, le développement de ces logiciels. C'est-à-dire que pour moi, la réponse, c'est bien de baser ces logiciels sur des technologies libres, donc qui permettent de bénéficier de l'écosystème du monde libre. Mais ils doivent bien sûr s'inscrire dans un cadre qui permette l'évolution de ces logiciels. Quand un logiciel est pour seul client l'éducation nationale, il est très difficile. Il y a une espèce de lourdeur, un monopole, entre quelque sorte, qui s'établit, et le logiciel évolue mal. Donc là, sur la réponse, pour le coup, certains s'étonneront, mais je pense qu'il y a quand même pouvoir partager les choses entre les États, entre les administrations, sur le développement de ce genre d'outils, ça pourrait être aussi une bonne chose. Voilà. Et le second point, c'est sur l'open data, où effectivement, je suis parfaitement en phase avec Fleur Pellerin. Je pense que c'est un outil pour la démocratie qui est essentiel, la démocratie locale et la démocratie aussi au niveau de l'État. Et effectivement, je reconnais l'effort qui a été fait par le gouvernement de Fillon pour mettre en ligne ces données, notamment le budget de l'État, même s'il y a un problème de lisibilité qui rend ces données difficilement compréhensibles pour le commun des mortels. Mais reste que l'open data pour les administrations locales, pour la vie locale, la vie municipale, etc., et même la vie au niveau national et le débat public sont des choses qui sont parfaitement essentielles. Et aujourd'hui, c'est rendu possible et on doit aller le plus loin possible dans ce domaine-là. Voilà.
Avant de passer la parole à Benjamin Lacar, sur ces questions-là, je rappellerai comme les expériences, notamment, enfin pas les expériences, l'association Adulacte, qui regroupe des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales, donc qui mutualisent des développements métiers, justement, c'est une des réponses apportées. Je pense aussi à l'ENT Lili, qui a été développé originellement par la région Île-de-France et qui est réutilisé dans d'autres régions. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, excusez-moi, on va essayer de ne pas tutoyer, mais vous ne pouvez ne pas être d'accord, Sophie. Ah, l'outil, oui, non, mais ça, oui. Alors, la remise en cause de l'ENT, ça c'est autre chose. Je parlais de la démarche. Voilà, c'est le résultat. Mais en tout cas, de la démarche de mutualisation hors nationalisation qui existe déjà et qui mérite sans doute d'être encouragée. Je tenais juste à le préciser. Donc, Benjamin Lancard.
Non, alors, donc la position de l'UMP sur le sujet, c'est que c'est clairement pas à l'argent public de financer à gogo des grandes entreprises, notamment des multinationales américaines. Donc clairement, on est bien sûr favorable au développement du logiciel libre. Et je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience tout au long de ces dernières années, avec notamment des gestes symboliques. Mais effectivement, il y a 10 millions, je crois, chaque année de recherche et développement qui est investi par l'État dans le logiciel libre. Il y a effectivement des administrations très symboliques qui sont passées au logiciel libre. Dans toutes les administrations, notamment, je crois qu'on impose Firefox, on impose VLC. Il y a aussi l'Assemblée nationale qui est passée en logiciel libre. Donc c'est quand même des éléments notables.
Ce poste client.
Non, mais je bosse pas à l'Assemblée nationale, donc je peux pas témoigner de.
Je vous laisse
que
continuer.
Vous y connaissez bien plus que moi.
Je précisais juste que c'était sur le poste client et c'était pas sur la partie système d'information. Mais les députés utilisent effectivement du logiciel libre depuis 2008, je crois, ou 2009. Ouais,
bon, ça, c'est quand même positif. Voilà, donc il y a eu des avancées importantes. Idem, bien sûr, l'open data, c'est une grande satisfaction. Et moi, je pense que c'est bien que gauche comme droite, on salue cette avancée parce qu'elle est utile et il faudra bien sûr la poursuivre. Il faut évidemment qu'il y a eu la volonté d'aller rapidement pour pouvoir mettre en ligne le site. Et donc, peut-être qu'il faudra encore plus faire en sorte que ça soit tout en logiciel libre, parce que je sais qu'il y a certaines données qui sont d'abord pas en logiciel libre et puis elles sont bien sûr compatibles en format. Mais donc là, c'est sûr que c'est un sujet. Et puis l'autre chose, c'est le rapport de Franck Riester sur le sujet de l'e-administration, qui était un rapport important parce qu'il a permis de faire avancer des choses. Nathalie Kosciusko-Morizet avait beaucoup travaillé dessus quand elle était au secrétaire d'État au numérique. Donc là, je pense qu'on peut continuer à avancer. Juste une remarque, parce que j'ai entendu Fleur dire il faut que les collectivités fassent de l'open data sur le logiciel libre. Moi, je veux bien. Je n'ai pas du tout envie d'être polémique ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais je crois qu'Arnaud Montebourg a fait de l'open data. Je crois qu'Arnaud Montebourg a fait de l'open data en Saône-et-Loire, à son niveau, au niveau départemental, et il a utilisé pas du tout du logiciel libre, puisqu'il est même passé par un prestataire qui s'appelle Capitaine Dash, et donc au final, c'était pas du logiciel libre, et donc voilà, je pense que voilà, on a le droit aussi de regarder d'abord dans son propre camp, avant après d'essayer de donner des leçons.
Alors, je vais me permettre d'intervenir là, parce qu'effectivement, avant de laisser la parole à Frédéric Nau sur cette question-là, d'abord pour dire que ça va être un sujet, une thématique sur l'open data, parce que je pense que nos amis de Regards Citoyens qui sont dans la salle déjà vont hurler, vont vouloir intervenir, et je les encourage à organiser une thématique, un débat sur l'open data ici même, parce que l'open data, ça concerne, effectivement, sur les formats, ça concerne un petit peu le logiciel libre, mais pas directement. Donc voilà, Benjamin de Regards Citoyens nous a dit qu'ils feront effectivement un débat sur l'open data. Et je voulais juste, avant de passer la parole donc à Frédéric Nau, rappeler que quand vous parliez des formats ouverts, que François Fillon a annoncé récemment Ah, c'est ce dont tu voulais parler ? Alors je laisse la parole à Frédéric Nau.
Non, je vais essayer de répondre sur plusieurs points. Chez les écolos, on est quand même assez à l'aise avec les thématiques des logiciels libres et du non-brevetage, etc. Parce que ça recoupe aussi beaucoup des thématiques qu'on a sur le brevetage du vivant. Voilà. Ce qui fait que je crois que les Verts ont été dans les premiers partis politiques à s'intéresser à ces questions et soutiennent systématiquement, que ce soit au Parlement européen ou au Parlement français, surtout quand on aura plein de députés bientôt, et au Sénat, maintenant qu'on a pas mal de sénateurs, toutes les initiatives, tous ces combats-là. Sur la question de l'administration, enfin du libre dans les administrations et les collectivités locales. Je crois qu'on a été le premier parti politique à demander ça, c'était en début 2006. Maintenant, alors sur l'open data, moi je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant. C'est, mine de rien, pour le coup, c'était une bonne initiative, même si effectivement ça fait longtemps qu'on l'attendait, qu'il y ait ça. Je pense que maintenant que le débat est posé, qu'une licence a été proposée pour les données, ça serait intéressant de remonter au niveau de la production des données. Donc il y a des exemples, par exemple, ce qui se fait Géo Orchestra, qui est décliné en Bretagne sur Géo Bretagne avec OpenStreetMap, où il y a plusieurs administrations qui peuvent enrichir une même base de données, de données géographiques, de cartographie, sur un outil libre. Donc je pense qu'il y a moyen, en partant de cet appétit qui a été donné sur l'ouverture, de remonter vers les applications. Et vers les pratiques dans les collectivités. Après, sur le débat aujourd'hui, quand même, c'est qu'on part quand même de très très loin. Ça fait très longtemps qu'on demande ça, que tout le monde a compris les intérêts financiers de ne pas se retrouver bloqué dans des formats propriétaires, de ne pas se retrouver avec des données qu'on ne peut plus utiliser quand le fournisseur de logiciels fait faillite. Donc tout le monde a bien compris les enjeux. N'empêche que ça n'arrive presque pas. Le libre dans les administrations, on n'y est pas. Donc il faut quand même qu'il y ait une vraie volonté publique qui passe et par la loi, donc ce que tu allais dire, je pense, sur le référentiel, que finalement, au dernier moment, François Fillon a autorisé qu'à côté des licences, des formats...
Je n'allais pas parler de ça tout de suite, mais effectivement, je comptais poser une question sur les RGI après. Bon, je te laisse finir.
Ah, d'accord.
Mais vas-y.
Et que dans la RGI, c'était la première nickel.
RGI, c'est référentiel général d'interopérabilité.
Pardon. Mais je crois que tu l'as dit. Et qu'au dernier moment, le format de Microsoft, c'est OXML, je crois, a été accepté à côté du format Open Document. Ce qui fout en l'air complètement le principe, vu qu'il n'y a plus d'obligation d'interopérabilité de fait. On ne peut pas dire que parce que Microsoft est partout, c'est interopérable. Donc ça, c'était un premier sujet. Juste, je voulais revenir sur les commandes publiques. C'est pareil, alors je sais pas, c'est peut-être un problème, une question de formulation, mais j'avais l'impression que tu disais il faut faire attention dans les marchés publics à ce que Microsoft ne se retrouve pas exclu des commandes publiques parce qu'on n'aurait voulu que du libre dans la commande. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, il est l'inverse. C'est comment faire pour que les commandes publiques aujourd'hui permettent le libre et ne soient pas dans la définition du marché qui est posé sur la table, qu'il n'y ait pas des contraintes qui font qu'on soit obligé de répondre avec une solution propriétaire.
Alors, je vais laisser éventuellement les personnes réagir, mais comme tu parlais du référentiel général d'interopérabilité, en fait, je voulais parler effectivement de François Fillon, mais pas exactement de ça. Mais je vais quand même en parler, parce que ça va être l'occasion de poser une question un peu technique, mais que vous aurez sans doute dans le questionnaire. Donc, François Fillon a annoncé il y a récemment qu'il demandait la généralisation des fonds Romains ouverts dans l'administration. Ça fait quand même plusieurs mois. Il y a une députée qui vient de poser une question écrite pour savoir concrètement comment ça va se mettre en place. Donc on espère qu'on va avoir des réponses. Mais effectivement, tu faisais référence au référentiel général d'interopérabilité donc qui indique un certain nombre de préconisations par rapport à des formats de documents, notamment. Et effectivement, la première version de ce référentiel demandait aux administrations d'utiliser le format de Open Document, format normalisé. Ensuite, il y a eu un lobbying, et on peut le dire très clairement, parce que c'est reconnu par tout le monde, de Microsoft pour acheter sa normalisation auprès de l'ISO. En France, ça a été même à un point terrible, c'est que la commission qui participait à cette étude, dont je faisais partie, s'est majoritairement opposée à cette normalisation et que malgré tout, le gouvernement a donné son accord. Donc ça, c'est un fait. Donc si j'ai bien compris, certains acteurs ici vont remettre en cause le RJI dès qu'ils seront élus. Et est-ce que les autres vont maintenir ce référentiel qui, en gros, dit aux administrations « continuez à utiliser Microsoft ».
Je vais juste répondre sur les marchés publics. Ce n'était pas du tout un jugement qualitatif. C'est un constat juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à un marché public qui exclut de facto un des acteurs, que ce soit libre ou propriétaire, d'un marché public. Et là, la jurisprudence, justement, c'était sur l'ILI, la jurisprudence récente du Conseil d'État dont on parlait, qui a confirmé que pour des marchés de services, c'est-à-dire est-ce qu'on peut demander, c'était la région Picardie en l'espèce, est-ce qu'on peut demander d'utiliser un format libre, l'ILI, et de demander un prestataire de développer des spécificités qui permettent d'adapter l'ILI à la situation picarde, le Conseil d'État a répondu que oui, on le peut dans le cadre d'un marché de services, mais pas dans le cadre d'un marché de fourniture. Donc il y a une distinction qui est faite, et c'est juste un constat. À code des marchés publics constant, on ne peut pas exclure un acteur du marché, que ce soit un acteur du libre ou un acteur du propriétaire. Alors sur le RGI, moi, je suis tout entièrement d'accord. Je trouve que le fait qu'il y ait dans le RGI un format OOXML, qui soit complètement une coquille vide en fait, qui n'est pas défini, rend l'utilisation de ce RGI assez compliquée. Donc je pense qu'il faut sortir, enfin il faut avoir un format vraiment libre. Effectivement, l'introduction du format OXML est le résultat d'un lobbying auprès des collectivités locales et du gouvernement et ne correspond pas à un vrai standard ouvert.
Alors, je vais laisser réagir Benjamin Lancard. Je voudrais juste préciser avant sur la partie marché public. Tu voulais préciser ? Bon, de toute façon, on allait dire la même chose, donc je te laisse la dire. Donc Jeanne Tadeuse, ma collègue en charge des affaires publiques.
Non, ça marche. Si, l'allumé, ça marche mieux quand même. Non, mais juste pour préciser sur les marchés publics, effectivement, le Conseil d'État a précisé la distinction entre marché de fourniture et marché de service, mais il a aussi rappelé que dans le cadre d'un logiciel libre, il n'y avait pas de marché de fourniture, puisqu'il n'y a pas d'acte d'achat, puisque à partir du moment, enfin, pour les logiciels qui sont librement déjà disponibles, par exemple sur Internet, le Conseil d'État a considéré, en tout cas dans le cas de l'ILI, finalement, il n'y a pas besoin de faire un achat pour se procurer le logiciel, il y avait uniquement un marché de service.
Dans ce cas-là, oui, mais on peut très bien imaginer qu'une administration commande un logiciel libre et qu'une société développe un logiciel libre pour répondre à une certaine demande. Et dans ce cas-là, ce serait un marché de prestation, enfin de fourniture.
Oui, mais non, ce serait quand même qu'un marché de prestation, puisque l'administration, elle ne commande pas le logiciel, elle commande la prestation d'écriture d'un logiciel. Ah non, mais... Et si dans l'appel d'offres, il y a marqué que la licence du produit fini doit être la GPL, ça c'est une condition que le Conseil d'État aura du mal à retoquer, je pense. Hein.
Alors, ceci, avant vraiment de passer la parole à Benjamin Lancard, je rappelle quand même que sur le code des marchés publics, ce qui est une demande déjà, c'est qu'en en fait, on demande des fonctionnalités de logiciels et non pas des noms de logiciels. Là, ça exclut personne. C'est-à-dire ça exclut ni le logiciel libre, ni le logiciel propriétaire. Ça permet à n'importe qui de répondre. Et ça, c'est déjà dans le code des marchés publics. Simplement, il n'est pas pour l'instant respecté par la plupart des collectivités, par manque souvent d'informations, par habitude. Donc voilà, c'est une demande relativement simple, simplement qui demande de l'information auprès des collectivités. C'est un travail que mène notamment Jeanne et d'autres acteurs. Voilà. Et donc, je laisse Benjamin Lancard réagir.
Non, mais moi je serai pas dans le détail à dire est-ce qu'on va réformer tout de suite le RGI ou pas, mais ce qui est certain, c'est que moi, je pense beaucoup que le président de la République élu ou réélu en 2012 devrait vraiment dire, voilà, dans 5 ans...
Réélu, c'est-à-dire qu'il est candidat ?
Je pense que vous avez compris que c'est un souhait ardent. C'est pas un grand scoop, hein. Mais enfin, en tout cas, c'est un.
Non, non, mais. C'est enregistré, non, mais... parce que normalement, c'est dimanche.
Scoop,
d'accord.
C'est pas un scoop, que c'est un souhait ardent, c'est un souhait ardent de ma part. Mais...
Mais
je vois que sa stratégie, en tout cas, fonctionne si ça provoque autant d'émoi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que voilà, moi, je crois beaucoup au fait que la personne qui dirige le pays à partir de 2012 soit et le gouvernement ait vraiment une logique de dire il faut que d'ici à 2017, on arrive à avoir la plupart de un pourcentage assez élevé d'administrations qui utilisent le logiciel libre. Et c'est pas que ça, c'est que globalement, ça soit un quinquennat vraiment de l'économie numérique et que on en fasse vraiment l'un des piliers principaux de croissance. Et donc, je pense que le logiciel libre fera partie de cette vision-là. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer en détail sur le RGI, mais par contre, je pense que ça s'inscrit pleinement dans un discours et en tout cas dans la vision qui est celle du projet de l'UMP.
Il n'y a pas de problème de ne pas rentrer dans le détail, il n'y a aucun souci. Avant juste de passer au sujet précédent, au sujet suivant, vous parlez d'un quinquennat de l'économie numérique. J'espère que ce sera un quinquennat de la société numérique. Parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a vu le numérique que d'un point de vue économique. Alors, ce n'est pas forcément le seul, hein, d'ailleurs, hein, mais nous espérons qu'il va englober la stratégie globale du numérique en tant que société numérique. Donc, on va changer de sujet. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur cet aspect-là ? Mais pas sur l'open data, s'il vous plaît. Vous aurez la cantine pour vous, tout seul. Parce que là, je les vois trépigner. Bon, alors, on va passer à la suite. On va changer de sujet. J'ai pas vu. Ah ben, oui, mais... Ah ben... Alors, il faut un micro. Frédéric, il faut un micro.
Bonjour, Frédéric. Sur le RGI, ça veut dire qu'il peut embarquer, entre guillemets, plusieurs types de formats, en l'occurrence de standards ou de normes qui sont passées à l'ISO, ou ça veut dire que ce texte, ce corpus de texte, que ce soit RGA, RGS, RGI, ou celui qui existe aussi dans la santé, il ne doit, entre guillemets, proposer qu'un seul standard pour que ce soit plus simple et plus compréhensible. Et voilà, ça, c'est une question ouverte. Un ou plusieurs standards pour chaque type de problématique ou d'usage. Merci.
Alors, l'expert que tu es, vu que tu as participé à ces travaux-là sous une autre casquette, la question s'adresse à qui ? À nous ou aux intervenants ? À l'ensemble ? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre ? Alors, les intervenants laissent la question ouverte. Si Frôleur veut répondre.
Je pense que ce n'est pas une question de nombre de standards. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs standards. L'important, c'est que les standards correspondent à quelque chose. Là, en l'espèce, le standard de Microsoft ne correspond à rien. Donc, a été normé par, normalisé, ou je ne sais pas comment on dit, par ISO de manière assez hâtive et complaisante. Quoi. Donc, c'est plus ça le problème que le nombre de standards. Je pense qu'à partir du moment où les standards sont ouverts et interopérables, on peut très bien les accepter.
Bon, je vois de loin que la réponse ne te satisfait pas, mais c'est un sujet ouvert. Oui, enfin, 150 pays, Microsoft avait effectivement beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de monde, on le sait très bien tous les deux, donc ceci dit, c'est un autre sujet. Toute la documentation est en ligne. Donc en gros, tu dis que c'est un combat de lobby et que simplement il y en a un qui a dépensé plus d'argent que l'autre. Bon,
non,
c'est
mais,
un sujet.
Non, mais après,
Sophie Duvauchel.
Si, moi, j'ai, sur le fond, un usage, le référentiel général d'opérabilité, il définit des usages pour tel type d'usage. Il y a tel type de format. Donc ça veut bien dire qu'il n'est pas obligatoire qu'il n'y en ait qu'un seul. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un format ouvert ? C'est un format qui est suffisamment documenté pour que tout développeur puisse l'exploiter. Si le format de Microsoft ou de IBM ou de Google ou de n'importe qui est véritablement ouvert, il n'y a aucune raison qu'il soit exclu. Et il n'y a aucune raison à ce qu'on dise qu'il n'y en a qu'un seul. Effectivement, on dit les marchés publics aujourd'hui peuvent écrire, même si dans la loi ils n'ont pas le droit, mais ça arrive souvent qu'ils écrivent noir sur blanc, nous avons besoin d'un logiciel sous Windows qui s'interface avec Word pour faire ceci et cela. Finalement, si on dit nous voulons obligatoirement un logiciel qui utilise le format ODT, ça n'a pas les mêmes implications, mais c'est le même type d'erreur, quoi. C'est le même type de choses qu'on ne peut pas accepter. Et j'irais presque jusqu'à dire que c'est une problématique de laïcité. Vous allez tous ouvrir des yeux gros comme pas permis. Mais la laïcité, c'est ce qui sépare ce qui est privé de ce qui est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est par exemple, on a besoin d'un tableur. Le privé, c'est je prends le format XLS, je prends le format ODS, je prends le format bidule. La République, elle n'a pas à dire que pour tel type d'usage, vous utilisez tel outil particulier. Chacun est libre. Effectivement, à partir du moment où c'est interopérable et documenté, donc ouvert.
Alors, merci pour cette réponse, Sophie, qui a l'air de satisfaire Frédéric. Bon, oui, très bien, ok, il le satisfait. Je préviens pour ceux qui nous écoutent, qui hochent la tête. Donc, on va changer de sujet, mais on ne va pas finalement trop s'éloigner, vu que tu parlais... Ah ben, il est où ? Ah, je ne voyais pas, excusez-moi.
Concernant l'administration, sous Jospin, ça fait un certain temps... Jospin avait mis en place à l'intérieur de l'administration une structure qui s'appelait l'ATICA, qui était transversale aux différents corps administratifs et qui avait pour vocation spécifique de promouvoir le logiciel libre. Est-ce que ce type de structure sera remise en place par l'administration, dans l'administration pour pouvoir le faire, justement compte tenu de la problématique des différents corps dans l'administration et des différents statuts de l'administration et des formations ? Ou est-ce qu'on ne reviendra pas là-dessus compte tenu de la disparition de ces structures ?
Alors, qui souhaite répondre rapidement sur ce sujet ? Est-ce que le micro peut revenir ? Benjamin Ricard ?
Non, mais moi, comme ça, c'est peut-être ma culture politique, mais je ne suis pas persuadé que c'est parce qu'on crée un organisme ou une entité ou une autorité que...
Une auto-autorité, c'est ça ?
Oui, ou une... que c'était pour voir si vous suiviez, mais en tout cas, on est voilà. Moi, je suis pas persuadé que ce soit forcément ça qui assure la réussite. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Et attention, je pense qu'il faut aussi se dire la vérité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une impulsion très forte de l'administration centrale, mais le principe de libre administration des collectivités territoriales fait que c'est pas le président élu qui pourra dire ou un gouvernement qui pourra dire tout le monde doit faire du logiciel libre. Donc, on a bien vu qu'il y a des cas de collectivités de gauche comme de droite qui ne le font pas actuellement. Donc, je pense que c'est pas simplement juste créer une autorité, mais c'est aussi, ou une entité, c'est aussi vraiment un environnement et des signaux positifs à envoyer à l'ensemble. Et moi, je pense qu'on devrait avoir, par exemple, des congrès de l'AMF, des congrès de l'Assemblée générale, de l'Assemblée des départements, des régions de France, où ça revient davantage que ça ne l'est aujourd'hui.
Alors, juste avant de changer de sujet, pour répondre à ta question, ce qui a pris la suite, mais vaguement, de la TICA, c'est aujourd'hui la DISIC, la Direction interministérielle des informations et de communication. Non, mais je te dis, juridiquement, c'est ce qui a pris la suite, même si effectivement, ça n'a pas repris une bonne partie de ses prérogatives.
L'ATICA n'était pas une administration, elle n'était même pas une mission, disons, rattachée auprès des services du Premier ministre. C'était juste... C'était pas une direction, c'était quelque chose qui était au sein... Ouais,
c'était quand même rattaché au Premier ministre, quand même.
Non, c'était un groupe de travail qui était au sein de l'administration, mais qui n'avait pas d'existence juridique.
Ok. Nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas très grave. Chacun a le droit. Alors, on va changer de sujet pour parler maintenant des difficultés rencontrées par les consommateurs que nous sommes tous. Alors, on va cibler un petit peu quand même certaines difficultés pour parler notamment de la vente liée ordinateur logiciel, des menottes numériques, notamment les DRM, sur les contenus culturels ou autres. Donc, à la fois d'un point de vue, on va dire, usage, etc., et puis aussi d'un point de vue législatif, parce que notamment il y a une loi qui a été votée il y a quelques années déjà, qui finit en I, elle aussi, mais qui est DATSI, DADVSI, la droit d'auteur et droit voisin de la société de l'information, qui pénalise notamment le contournement des mesures techniques, qui a posé notamment beaucoup de soucis et qui ont continué à poser à nos amis de Vidéoland qui sont ce soir présents. Donc là-dessus, sur la partie donc, consommateurs, les problèmes qu'ils ont, les DRM, la vente liée, et puis la loi DATSI, par exemple, une question simple, est-ce que vous abrogez ou est-ce que vous revoyez un certain nombre de dispositions de cette loi-là ? Sur la vente liée ordinateur logiciel, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce qu'il y a un problème ? Et s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Qui veut commencer ? Fred ?
Je veux bien répondre sur la vente liée notamment, parce que moi, c'est un sujet que j'avais vu, c'est un des premiers sujets que j'ai vu dans cette thématique, mais il y a plusieurs années. Et là, en regardant un peu, j'ai vu que ça fait 12 ans en fait, que des associations comme Racketticiel se battent là-dessus. Personnellement, je ne suis pas du tout de droite, mais quand j'ai vu que la droite arrivait au pouvoir, enfin vraiment la vraie droite, je me suis dit au moins c'est des libéraux. Et un côté vente liée comme ça, c'est un sujet sur lequel ça peut avancer. Et il y a eu toutes les déclarations, c'était dans le plan numérique 2012. Tout ça s'était indiqué, ça me semblait, je ne voyais pas le problème. Je veux dire, ça ne concerne pas des technologies françaises, on n'a rien à gagner là-dessus. Et pourtant, ce n'est pas passé, et on en est toujours au même point. Donc moi, je peux vous faire exactement la réponse qu'avait fait Voynet en 2007, qui est la réponse de tout le monde. Effectivement, quand on rentre chez un marchand d'ordinateurs, il devrait très logiquement y avoir indiqué très clairement le prix de l'ordinateur, le prix des logiciels, qu'on prenne avec ou sans les logiciels. On peut acheter un ordinateur nu. Il y a plein de solutions aujourd'hui pour activer un logiciel qui est préinstallé ou ne pas l'activer. On pourrait avoir plusieurs systèmes d'exploitation à la base. Ça, c'est fait sur les navigateurs. Je ne vois aucune raison, à part des questions de lobbying, pour que la vente liée continue à exister. Et je trouvais que c'était vraiment le minimum, le tout petit sujet qui, au moins, pouvait avancer. Et voilà. Donc, on verra à la prochaine alternance. Juste en... Oui, l'alternance prochaine. Alternance.
Non, mais... Juste sur ce point précis de la vente liée, effectivement, c'était un engagement fort de ce gouvernement. Et d'abord, il y a eu une question posée. Il y avait une question préjudicielle qui a été posée. C'est pas une question préjudicielle, pardon. Enfin, il y a une question qui a été posée à la Commission. La Commission a dit que le principe de vente liée n'impliquait pas abus de position dominante. Donc, la France a fait ce qu'elle pouvait faire sous un droit européen, droit de l'Union européenne, et la réponse, c'est que les ventes liées, ça n'est pas un abus de position dominante. Quand il y en a eu avec notamment
Laissez le finir, vous allez réagir.
Il n'y a pas de, c'est-à-dire que ça n'est pas considéré comme un abus de position dominante d'être dans cette situation-là. Et le gouvernement a posé la question à la Commission européenne. Et d'ailleurs, quand il y a eu le sujet avec Microsoft et Internet Explorer et Firefox, là, il y avait abus de position dominante, et donc la Commission l'a dit. Donc bien sûr qu'après, on pourra mener des discussions au niveau européen, mais il ne faut pas dire que ce gouvernement n'a pas agi sur cette question, il l'a fait, mais il y a eu une réponse qui était négative de la part de la Commission.
Alors, qui veut réagir ? Sophie, Fleur ?
Moi, je veux bien.
Jeanne, peut-être, parce que je la vois tripler.
Moi, j'ai l'impression que là, ce recours à la Commission européenne, c'est juste un parapluie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher au niveau de l'Europe. Dans le Code de la consommation en France, il y a un article qui considère comme une contravention la vente forcée sous forme de vente liée. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'Europe. Il faut faire appliquer le Code de la consommation français, point barre. C'est tout. On ne peut pas obliger les gens à acheter un produit lié à celui qu'ils veulent, mais que celui-là, ils ne le veulent pas. Non, ce n'est pas possible. Et là, pour le coup, il n'y a rien besoin de faire. Il suffit tout simplement de faire appliquer correctement la loi et donc d'envoyer les voilà, mais sauf que ça ne s'appelle plus comme ça, la Direction Générale de la Concurrence. Enfin, en tout cas, l'administration aujourd'hui chargée de l'application des dispositions du Code de la Consommation doivent aller effectuer un certain nombre de contrôles. Je pense que les contrevenants devraient pouvoir rentrer dans le rang assez rapidement en voyant qu'il y a quelques contrôles. Je pense que ça pourrait être très rapide, parce que comme le disait Frédéric, il y a des dispositifs logiciels qui sont très très faciles à mettre en œuvre. Je veux dire, que ce soit un abus de position dominante ou la Commission européenne n'est pas forcément la plus rétrograde en la matière, mais je comprends, enfin, puisqu'ils ont déjà condamné Microsoft, mais je comprends même pas comment ils ont pu dire ça, mais bon, je dirais, il suffit que Microsoft mette des Windows pré-installés mais non activés. Et puis surtout, je veux dire, il y aurait beaucoup de consommateurs qui, s'ils avaient le choix entre un ordinateur avec Windows, un ordinateur avec un autre système d'exploitation libre, qui choisiraient le système libre, très clairement. Donc ça, pour le coup, on ne peut pas obliger les vendeurs d'ordinateurs, évidemment, mais on peut faire des incitations Et de toute façon, il faut punir la vente liée. Il n'y a pas besoin de changer la législation, elle est déjà là.
Fleur Pellerin, vous vouliez réagir aussi ?
En gros, c'est plus sain, quoi. Mais effectivement, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des systèmes d'exploitation libres qui permettent maintenant, y compris de tourner avec, enfin, de faire tourner des logiciels propriétaires. Donc, même si les gens sont attachés à Word et veulent pas changer, veulent avoir Excel, etc., il y a des systèmes d'exploitation autres que Windows qui permettent d'utiliser ces logiciels. Donc, il y a absolument aucune raison de ne pas appliquer la loi. Effectivement, alors la Cour de cassation, là, son arrêt était très attendu d'Arty contre UFC que choisir. N'est pas finalement allé aussi loin qu'on pouvait l'espérer en disant que juste maintenant il faut une information du consommateur sur le prix de la licence du système d'exploitation et des logiciels au moment de l'acte d'achat, mais c'est vrai que ça va pas assez loin et que tous les dispositifs techniques existent aujourd'hui, donc clé d'activation pour permettre de respecter la loi. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut avoir une action assez volontariste en ce domaine.
Jeanne, tu veux apporter une précision ou...
Juste une précision rapide. Effectivement, la commission avait eu l'occasion d'en discuter. Effectivement, elle a dit que le fait de vendre simultanément un logiciel et un ordinateur, c'est pas forcément problématique en soi. Par contre, elle s'est absolument pas prononcée sur ce qui préoccupe finalement l'April et beaucoup d'autres associations, c'est la possibilité d'acheter un ordinateur sans avoir à payer des logiciels, sans que ce soit exigé. Et donc, voilà, faut bien aussi comprendre qu'il y a quand même deux questions et deux enjeux différents à ce niveau-là. Et ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, c'est important de vraiment voir cette distinction.
Benjamin Lancard.
Enfin, j'ai juste informé ce que je voulais répondre sur la partie, comme si le gouvernement. Enfin, qu'il y aurait eu une action. Je pense qu'il y a eu action. Je pense qu'il y a eu ce qu'il fallait faire. En revanche, bien sûr qu'il faut augmenter les informations, augmenter les incitations. Mais je pense juste qu'on ne peut pas s'exonérer et se dire comme ça, ça n'existe pas. Ce gouvernement n'a pas agi là-dessus. Ou c'est complètement illégal de faire aujourd'hui de la vente liée. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, si d'aventure on appliquait de manière. Il réfléchit une réglementation qui n'existe pas, au niveau européen, on se ferait taper dessus. Donc, ce n'est pas notre manière d'agir. Je pense que c'est plus intéressant, effectivement, d'augmenter l'information et de faire en sorte que, effectivement, les gens puissent avoir le choix à un moment donné. Autre chose, parce que je vous en avais discuté avec Laure de la Rodière récemment, la question quand on achète un mobile, un smartphone, est-ce qu'on est directement sur un système ou pas ? Moi, il faudrait réfléchir aussi à effectivement voir comment est-ce que techniquement ce serait possible, parce qu'il y a à la fois il y a une tension entre deux idées. D'abord, le fait que les gens veulent tout de suite avoir un système qui marche, enfin un appareil qui fonctionne, et puis d'autre part, effectivement, le fait de pouvoir informer, de pouvoir choisir. C'est vrai que pour le moment, on en est loin, et je pense que là-dessus, ce serait des réflexions à mener, des groupes de travail à ouvrir très vite là-dessus.
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même que lors du projet de loi consommation, visiblement, des députés de droite et de gauche étaient d'accord pour dire qu'il y avait vraiment un problème, vu que Laure de la Rodière, Lionel Tardy, Frédéric Massat du côté Parti Socialiste et d'autres sont intervenus sur ce sujet-là. Avant, il y avait déjà Martine Billard qui était intervenue sur un précédent projet de loi consommation. Vous parlez de groupe de travail. Dans le plan France Numérique 2012, il devait y avoir un groupe de travail qui devait travailler justement sur la mise en place d'expérimentations d'optionnalité. Il n'y a jamais eu rien qui n'a été fait. Ah, donc il faut qu'il voit le jour très vite. D'accord. Alors, notons que dans le plan France Numérique 2020, donc, qui a été présenté cette année, il n'y avait plus du tout la question de la vente liée et il n'y avait même plus le mot logiciel libre. Je me permets juste de le dire. Mais peut-être qu'effectivement, lors de la prochaine alternance, ce sujet sera réglé. Vous vouliez intervenir ?
Je voulais juste dire que les entreprises peuvent acheter aujourd'hui des ordinateurs sans système d'exploitation. Donc, on ne voit pas pourquoi les particuliers ne pourraient pas avoir accès à cette offre.
Exactement. Alors, sur la vente liée, on va passer un petit peu au DRM et puis à la célèbre loi DADVSI qu'on a un peu tendance à oublier depuis que l'autre loi en I a été votée. Donc là-dessus, sur les DRM qui, sur la musique ont pratiquement disparu, mais qui sur la vidéo sont fortement présents, la loi DADVSI, elle est toujours là. Hein, on l'oublie, mais elle est toujours là. Elle est certes pour l'instant pas appliquée, mais on est quand même toujours sur cette menace-là, de cette loi-là. Donc, quelles actions on peut mener concrètement au niveau législatif ou autre ? Qui veut intervenir là-dessus ? Est-ce que le parti promoteur de cette loi veut intervenir ou il laisse la parole d'abord Non, pas du tout. Jean-Baptiste, peut-être ? Jean-Baptiste Raffano. Oui.
La DADVSI, c'est quelque chose qu'on a combattu, enfin, que Nicolas Dupont-Aignan a combattu depuis 2005. C'est un sujet sur lequel il est particulièrement préoccupé. Il faut savoir que Nicolas Dupont-Aignan est quelqu'un qui a appris sur le sujet. Hein. Lui-même n'est pas quelqu'un qui est la génération numérique. Il le reconnaît volontiers. Il n'est pas un geek. Il passe pas ses journées sur ordinateur. Ça serait difficile. Mais même dans son usage, il a un usage très classique de l'ordinateur. Mais en revanche, il a essayé de comprendre. Il était entouré de jeunes, en fait, hein, comme Rodolphe, qui est peut-être, non, je crois qu'il n'est pas venu, mais comme d'autres jeunes encore, qui l'ont alerté sur le sujet, qui ont sensibilisé à la révolution numérique et qui lui ont permis de comprendre les enjeux avant que la loi des ADVSI arrive et de la combattre. Donc aujourd'hui, effectivement, elle n'a pas été abrogée. Enfin, elle avait été plus ou moins allégée par le Conseil constitutionnel, il me semble. Ou non, c'était la DOPI. C'était la DOPI, pardon. Et bon, le fait est que aujourd'hui, sur la protection des DRM, etc., c'est un sujet qui mérite encore d'être combattu. Mais pour moi, je crois que beaucoup d'acteurs ont compris qu'ils n'avaient plus vraiment intérêt à mettre des DRM partout aussi. Il y a ça aussi qui a quand même évolué.
Non. Sur la musique, je suis d'accord, mais alors sur la vidéo, ils n'ont pas compris. alors, vous, de votre côté, là, qu'est-ce que vous allez faire de cette loi ? Alors, je me tourne vers nos amis à gauche, hein, je vous précise. Qui veut intervenir ? Fred ? Frédéric Nau ?
En un mot, nous, on a proposé clairement dans le programme la suppression de la loi d'Absi. Voilà.
Et pour le Front de Gauche, pareil. Martine Billard, notre députée, qui n'était pas à l'époque au Front de Gauche, mais chez les Verts, donc c'est logique. Hein, c'est également beaucoup battu contre des ADVSI, donc voilà, c'est très clair. Et puis j'explique même pourquoi. Il n'est pas normal d'acheter un DVD et de ne pas pouvoir le regarder de façon parfaitement légale. De manière générale, on vit dans un monde où on est toujours soupçonné de vouloir être délinquant et que ça, c'est philosophiquement quelque chose auquel le Front de Gauche s'oppose et qu'il combat.
Je crois qu'on est prêt pour avoir un programme de gouvernement commun. Non. Mais oui. Donc, effectivement, pour nous, les mesures techniques de protection sont effectivement une absurdité à la fois juridique et économique. Et surtout, ce que tu disais, c'est-à-dire que ça crée une sorte de présomption de culpabilité de l'utilisateur qui est absolument insupportable. Donc, pour nous, tout ce qui est DRM, négligence pour autrui ou autre concept de juridique de ce type sont plutôt à combattre. Et donc, alors, le truc qui est quand même un peu compliqué, c'est que tout ça dérive quand même d'une directive européenne. Donc, il faudra bien aussi en passer d'abord par une discussion avec nos partenaires européens sur la directive qui est à l'origine de la transposition dans la loi DAV-DSI, mais on est plutôt pour l'abrogation.
D'accord. Alors, vous parlez de cette directive européenne. Ça tombe bien parce que cette directive européenne, donc EUCD, European Union Copyright Directive, a été votée en 2001. Donc là, ce n'était pas un gouvernement de droite qui était en France et qui négociait au niveau européen. C'était Catherine Tasca qui était ministre de la Culture. Alors, Sophie Duvauchel précise 15 gouvernements de gauche sur 25 qui ont voté cette directive. Donc, est-ce que j'entends par là, dans ce que vous dites, en fait, qu'il y a une remise en cause de ce qui a été voté à l'époque et que, notamment, au niveau du Parti socialiste, il y a une évolution et qui irait même juste... Alors, on va switcher sur la côté international, sur une remise en cause de la directive EUCD et voire même une révision complète des directives actuelles, et incluant, par exemple, notamment IPRED, Intellectual Property Reinforcement, donc la directive sur le renforcement des droits, entre guillemets, de propriété intellectuelle. Donc là, est-ce que, au niveau... les partis de gauche qui, visiblement, ont voté cette directive, pas les Verts, hein, je me souviens. Partis sociaux-démocrates, précise Sophie Duvauchel. Est-ce que vous allez porter le fer au niveau européen ? Parce qu'effectivement, la plupart des lois en française aujourd'hui descendent de directives européennes. Alors c'est vrai qu'en 2001, on peut peut-être considérer que les gens n'avaient pas forcément compris le danger des DRM, donc on peut peut-être passer sur le fait que c'était en 2001, mais maintenant on est en 2012, donc est-ce qu'il va y avoir une remise en cause de ces directives, à commencer par la directive EUCD ?
C'était déjà dans le programme du PS en 2007, donc je pense qu'il y a effectivement... Il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre 2001 et 2012, donc je pense que l'approche aujourd'hui est totalement différente, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'un certain nombre de dispositions législatives peuvent entraîner une surveillance généralisée et des présomptions de culpabilité qui paraissent un peu compatibles avec les usages qui se sont développés et avec les moyens d'accès à l'information, à la culture qui passent aujourd'hui par Internet. Donc moi, je pense qu'il faut évoluer là-dessus. Ouais.
Alors, évidemment, j'ai posé la question à Benjamin Lancard, parce que autant EUCD a été voté sous un gouvernement de gauche, mais autant IPRED et ses derniers avatars ont été poussés quand même sous des gouvernements de droite. Donc est-ce qu'on maintient cette logique à la fois effectivement de présomption de copiabilité, répressive, contrôle des usages, ou est-ce qu'on essaye de rééquilibrer les choses en faveur finalement des consommateurs et aussi de l'innovation ?
Non, mais d'abord, sur les DRM, donc, en 2009 avec Adopi, sur la musique, ça a disparu. Donc je pense que c'est quand même une avancée. Et alors après, moi je suis pas... Désolé, philosophiquement, pour moi, je ne considère pas qu'il faille légaliser tous les échanges culturels et donc ne pas...
Je ne parlais absolument
non,
pas
mais,
de ça.
Non mais si, parce qu'à partir du moment où on enlève les DRM sur les DVD, ça suppose qu'on puisse donc du coup...
Ça suppose que les gens peuvent lire en fait ce DRM sur l'outil de leur choix, notamment du logiciel libre. Alors, la supposition que vous faites, c'est qu'à partir du moment où ils vont l'utiliser sur un outil de leur choix, ils vont
c'est
le partager.
Quand même, c'était quand même un peu le. Je pense
ah,
que un
donc
peu
vous êtes en train de dire que les gens du logiciel libre sont des gens qui.
Pas du tout. Non, là, vraiment pas. Non. Sincèrement, non. Mais c'est clair qu'il y a quand même ce sujet. Donc, moi, je dis juste qu'il faut, il faut le prendre en compte. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire c'est bon, les DRM, c'est fini. Je pense qu'il y a cette question-là, en plus de simplement l'utilisation du logiciel libre. Voilà. Donc, ensuite, pour le reste, moi, on est.
Donc, pas de remise en cause de la loi d'ATSI.
Non.
D'accord.
Et la position de la position de la France et même sur d'autres sujets qui concernent les libertés publiques et l'idée de ce climat de surveillance, c'est clairement l'idée qu'il n'y a pas, enfin il doit y avoir à chaque fois des passages devant les juges quand il doit y avoir des étapes importantes de surveillance comme des fermetures de sites ou des enquêtes approfondies. Voilà, donc on est sur ça, c'est ça la position de l'UMP.
Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la scène ?
Oui, quand même.
Voilà. Frédéric Nau.
Moi, je suis très étonné par ce que tu viens de dire. Parce que moi, si je pousse un tout petit peu ce que tu dis, à ce moment-là, mettons des puces sur tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais, les gens peuvent faire des bêtises. Donc voilà, et on va les repérer sur GPS, savoir s'ils sont bien à leur boulot. Enfin, c'est étonnant quand même ce que tu dis. On ne sait jamais, les gens pourraient pirater, donc on va mettre des espions partout.
Moi, je voudrais juste rajouter un truc. Hein, c'est quand il y a eu le premier débat de la loi sur la carte d'identité biométrique. Il y a un député, il me semble PS, qui avait demandé est-ce qu'on pourrait coupler les données biométriques de reconnaissance du visage avec les données des caméras de vidéosurveillance ? Et Claude Guéant a répondu la reconnaissance faciale, c'est pas prévu pour l'instant.
Pas obligé de caricaturer en permanence, donc voilà. Moi, je non, mais c'est
donc Claude Guéant caricature les positions
non,
de l'UMP.
Vous caricaturez ma position, elle est non, mais ma position elle est très équilibrée. C'est juste de dire voilà que il y a des DRM et que ils ont disparu sur la question de la musique et que c'est tout à fait. Moi, je comprends votre aspiration sur la question du logiciel libre, mais voilà ce que j'invite à dire et à réfléchir, c'est que la question des DRM, c'est pas juste pour ennuyer le logiciel libre, c'est aussi d'autres préoccupations de droit d'auteur qu'il faut avoir en compte. Et je pense qu'on va en débattre tout à l'heure.
Non, mais en fait, le débat qui concerne le logiciel libre, c'est pas l'existence des DRM, c'est le fait qu'il soit interdit d'essayer de les contourner. Et pas souvent
pour des usages légitimes, y compris pour des usages légitimes. Légitimes, pas forcément légaux.
Oui, légitime. Pardon, je sais plus ce que j'ai dit.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une différence entre l'usage légitime et légal.
Ah oui, bien sûr, parce que de vouloir le copier sur les 4 ou 10 ordinateurs de la maison, autres supports, etc., oui, c'est légitime, même si officiellement, c'est pas légal. Mais, monsieur Lancard, vous dites, c'est pas uniquement pour embêter le logiciel libre, mais c'est le contraire. C'est pas les DRM qui embêtent le logiciel libre, c'est la loi qui interdit de les contourner. Et qui effectivement ne s'applique que aux développeurs de logiciels libres, puisqu'il n'y a qu'eux qui ont les compétences pour essayer de le faire.
Alors, une dernière intervention de Fleur Pellerin sur ce sujet, et on peut prendre une question de la salle. S'il y en
a après. Je pense qu'il y a aussi derrière ça un sujet de concurrence, c'est-à-dire que effectivement, les DRM servent surtout à rendre les utilisateurs captifs d'un certain nombre de matériel pour la lecture des formats de fichiers. Donc, ça complète un peu ce qui a été dit, mais. Je pense que c'est pas uniquement tourner contre les utilisateurs, c'est tourner contre les utilisateurs, c'est pour les rendre captifs de matériel qui permettent de lire ou de logiciels qui permettent de lire des formats de fichiers. Quoi. Donc, voilà.
Alors on va prendre deux questions de la salle. Alors deux personnes qui sont effectivement concernées au premier chef. Donc on va commencer par Jean-Baptiste Kems de Vidéolan et ensuite Benjamin ex Stop DRM.
Jean-Baptiste. Bonjour. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis président de Vidéolan. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vidéolan, c'est l'éditeur du logiciel français le plus utilisé au monde. On a tendance à l'oublier, qui est un logiciel libre. Ça s'appelle VLC, c'est un petit truc avec un cône. Vous avez même vu des pubs. Alors, je voudrais une première remarque à Monsieur Lancard. Je trouve ça génial que la Commission européenne, et comme vous l'avez fait remarquer, nous aide Firefox et, à travailler sur la concurrence avec le ballot de screen pour les browsers. Pourquoi ça n'a pas été fait pour Windows Media Player et VLC ? Donc déjà, ça, c'est une première remarque. J'ai une autre remarque à Sophie. Il est légal de lire des DVD, mais par contre, c'est que sur les DVD. Ça ne s'applique pas aux autres DRM. Toujours pour introduire ma question à Monsieur Lancard, je vous rappellerai qu'il n'y a aucune, il n'y a aucune DRM à ce jour qui n'a pas été brisée. Alors, je recommence. Il n'y a aucune DRM à ce jour qui n'a pas été brisée. Je connais plein de gens qui font du reverse engineering, j'en fais beaucoup. Les DRM, ça n'empêche pas les utilisateurs. Ça n'empêche pas les pirates. Ça n'empêche que les utilisateurs qui veulent acheter leurs choses. Alors moi, ma question, elle est, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour lire les Blu-ray qui ne rentrent pas dans les décisions de justice qui ont été rendues actuellement sur mon système Linux ou même Windows d'ancienne version ou même d'autres systèmes. Par exemple, macOS 10, c'est rien, c'est juste 15% des utilisateurs. Comment je lis de façon légale en France mes Blu-ray là-dessus ?
Donc Benjamin Lancard, est-ce que tu peux passer le micro à l'autre Benjamin ? Allez-y.
Oui, non. Donc,
je vais peut-être compléter. Non, mais moi, je suis. Que ça s'enchaîne et c'est à la limite, ça permettra de faire une double réponse d'un coup si ça vous va. C'était de la même façon une question sur l'efficacité en fait, de manière générale, parce qu'effectivement, du DRM, à la limite, je veux bien peut-être imaginer le comprendre. Derrière, il y a effectivement essayer de faire en sorte qu'on contrôle ce que vont faire les usagers. Bon, c'est une philosophie qui, à mon avis, n'est pas du tout partagée par qui que ce soit ici. Presque, mais de manière générale, effectivement, on peut comprendre l'idée. Mais en pratique, effectivement, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité dans la mesure où personne n'a jamais été empêché de copier les DVD. Les DVD, ils sont tous copiés sur le net, et c'est des DVD qui ont été copiés à partir de la DRM. Par contre, en pratique, en termes d'efficacité, la DATSI, donc je reviens sur pourquoi est-ce qu'on ne l'annulerait pas, dans la mesure où, en pratique, je connais des gens dans cette salle, il y en a même un qui est président d'une association qui organise la soirée, qui s'est dénoncé, il est allé voir la police. Il leur a dit, regardez, j'ai lu un DVD sous Linux, et regardez, j'ai copié tel DRM, et j'ai montré...
Il aurait dit sous GNU Linux.
Sous GNU Linux, pardon. Et il y en a un autre qui a dit, regardez, j'ai un logiciel qui permet de contourner le DRM, et je l'ai republié, et il y a toujours le site internet qui est en ligne, avec l'EPV de la justice, qui a dit que elle ne savait pas quoi faire.
Donc deux qu'est-ce questions pour vous,
non,
Benjamin.
Moi, je ne suis pas du tout l'avocat des... Non, mais, j'ai pas dû être très clair dans ma réponse. Je suis pas du tout l'avocat des DRM pour emmerder le logiciel libre, ou de cause à effet. Bon. Mais en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant que la France repose la question sur la question de Windows Media Player et de VLC. Voilà. Donc, Non, mais si, pourquoi pas. Si, non, mais moi, parce que ça pourrait permettre aussi de résoudre le sujet. Ensuite, si à un moment donné, au niveau européen, il y a un consensus pour que le sujet de la directive de 2001 puisse évoluer, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est juste que il faut bien comprendre que ça dépasse l'enjeu. Il y a aussi l'enjeu du droit d'auteur et, comme le disait Fleur, de la concurrence.
Alors, avant de changer de sujet, ce qui serait peut-être au moins minimum intéressant, si par hasard, c'est à nouveau le président sortant qui est réélu, c'est qu'à minimum, il demande au Parlement, en tout cas que les parlementaires, publient enfin le rapport d'impact de la fameuse loi DATSI, c'est l'article 52. Ils avaient, je crois, un an et demi après la publication pour le faire. Ce serait bien qu'on ait ce rapport d'impact qui, intuitivement, montrerait effectivement que ça ne sert à rien, mais que ça met un certain nombre de personnes, développeurs, utilisateurs, dans une situation juridique difficile, inconfortable. Donc au moins qu'il y aurait ce rapport d'impact. Là-dessus, c'est faisable.
C'est la loi, de toute façon.
Ah oui, enfin... Et à la limite, on peut aussi se demander quelque part, finalement, l'ADOPI a repris les prérogatives de l'autorité des régulations des mesures techniques, notamment donc sur l'interopérabilité, les DRM. Or, cette autorité avait, lors de sa disparition, dans son dernier bilan d'activité, indiqué qu'elle ne servait en gros à rien, qu'elle n'avait jamais été saisie parce que c'était en gros très compliqué. Quand on constate effectivement les conditions de saisie de l'ADOPI sur cette partie-là, en gros, on n'y comprend rien parce que ce n'est pas vraiment précisé. Quand on parle aux gens de l'ADOPI, on a l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils ont découvert ça après. Donc concrètement, là aussi, il y a une évolution à faire sur cette partie-là. Si vous n'abrogez pas la loi, c'est qu'au moins donner des compétences peut-être à l'ADOPI sur ce sujet-là.
s'oppose pas à la DOPI, hein, donc je ne vais pas défendre les gens de la DOPI, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, moi, je ne sais pas si c'est dans les labs d'Adopi, ce thème-là.
Non, c'est dans la loi. C'est,
non, non, bien
c'est...
sûr, mais outre le caractère de saisine, est-ce que ça, on peut pas rajouter un lab justement d'Adopi là-dessus? C'est une manière aussi de traiter le sujet pour qu'Adopi puisse s'en saisir et que Frédéric...
Ou de ne pas le traiter, mais bon. Oui.
C'est pas mon point de vue.
Bon, il est intervenu.
Et comme vous entendez. Enfin, voilà.
Bon, on va pas trop quitter de toute façon le sujet quand même du droit d'auteur, parce que dans le point suivant, on va en parler. Donc, on va aborder l'éducation. Alors, évidemment, sous un axe principal qui est, parce que là, c'était quelque chose qui était prévu par un certain nombre de candidats et qui a été mis en œuvre, c'est l'enseignement de l'informatique. Alors, ce qui est mis en place actuellement, et je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Archambault, président de l'EPI, l'association Enseignement pour l'informatique, c'est un module optionnel en classe de terminale scientifique, de spécialité, mais optionnel. Voilà, Jean-Pierre confirme. Oui, d'accord, mais ils sont obligés de choisir celui-là. C'est ce que je veux dire par là. Mais tu pourras préciser, Sophie, après. Donc, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut commencer plus tôt, que ce soit obligatoire? Au niveau des contenus de cette formation qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous êtes satisfait? Et puis, pour revenir à droit d'auteur Adopi, dans l'Adopi article 9 bis, je crois bien, il y a un petit article qui... alors, je ne me souviens plus exactement de la formulation, mais qui, en gros, demande via le B2I, donc le brevet informatique, de sensibiliser les élèves, on va dire, à la protection du droit d'auteur ou je ne sais plus quoi, ou au danger de la contrefaçon. Et lors des débats parlementaires, il y avait plusieurs députés, ou au moins une députée, je crois que c'était Martine Billard à l'époque où elle était chez Europe Écologie Les Verts, qui avait proposé un amendement en disant bah, si on n'arrive pas à supprimer cette sensibilisation, parce que qui apparaissait un petit peu quand même de la propagande, au moins qu'on rajoute, on sensibilise aussi les élèves à l'existence des licences libres et à leur usage. Et cet amendement a été refusé par le gouvernement et par la majorité parlementaire. Donc là aussi, est-ce qu'on revient là-dessus? Donc en gros, ça pose la question de savoir finalement ben, quelle est la place de l'informatique et du droit d'auteur dans l'éducation de nos chères têtes blondes. Alors qui veut commencer? Peut-être Sophie, parce que bon... ta micro qui est là.
Oui. Oui, donc effectivement, c'est des questions auxquelles j'ai déjà beaucoup réfléchi pour différentes raisons. Mais j'enseigne pas à l'informatique, ni les maths, ni la technologie. Hein, mais
tu enseignes l'anglais, c'est ça?
Voilà. Donc oui, alors l'informatique, effectivement, cette nouvelle spécialité en terminale S, pour laquelle on peut quand même remercier effectivement Jean-Pierre Archambault, hein, puisqu'il s'est battu bec et ongles pour obtenir non seulement la création de cet enseignement, mais y compris la création d'une inspection générale d'informatique. Alors, ce qui ne parle peut-être pas à la majorité d'entre vous, mais ça veut dire qu'on ouvre la voie au recrutement de profs véritablement de la matière informatique, ce qui est quand même quelque chose qui n'a jamais existé et qui est un grand besoin. Ensuite, est-ce que c'est suffisant? Je dirais non, pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que c'est pas obligatoire. La deuxième, c'est que c'est trop tard. C'est pas obligatoire. Et en plus, ça ne touche pas tous les publics, hein, puisque c'est uniquement pour... C'est trop tard en termes d'âge, exactement. Je pense que il faudrait déjà. Pourquoi je pense qu'il faudrait que ce soit obligatoire, au moins jusqu'à un certain âge. Alors peut-être pas jusqu'à la terminale pour tout le monde, mais pourquoi est-ce qu'on fait des sciences physiques, des sciences de la vie et de la terre, de l'anglais, de l'histoire-géographie, même des maths, pas forcément jusqu'au bac. Hein, il faut savoir que aujourd'hui il y a des élèves en France qui arrêtent les maths à 15 ans. Hein, il va y en avoir. Il y en a eu, là, juste en juin dernier. Mais pourquoi on leur impose quand même, pourquoi la République impose à tous ses enfants d'avoir des notions, quand même, qui soient de niveau correct dans toutes ces matières-là, et notamment les matières scientifiques où tout le monde pense que, de toute façon, si on ne s'en sert pas dans son métier, ça ne sert à rien de les apprendre. Et bien, c'est tout simplement parce que ce dogme, enfin, cette idée-là, est totalement fausse. Hein, alors, je suppose que dans la salle, on a pas mal de gens qui ont fait des études scientifiques et qui doivent penser que ce que je dis est une évidence, mais c'est pas le cas de tout le monde, tout le monde sait grosso modo ce que c'est qu'une molécule, tout le monde sait grosso modo qu'on a des globules rouges et des globules blancs, tout le monde sait grosso modo que, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et par contre, on peut avoir une ministre de la Culture qui pense qu'Open Office est un firewall. si elle avait eu un enseignement de l'informatique au moins jusqu'à l'âge de 15 ans, je pense qu'elle aurait su la différence.
Tu parles de Christine Albanel, précisons, parce que visiblement tout le monde n'avait pas suivi.
On n'est pas obligé d'être méchant non plus.
Non, c'est pas méchant, c'est que tout le monde n'avait pas suivi cette histoire de Firewall Open Office.
Oui, quand j'ai vu les rires, je pense qu'il y en a pas mal qui voyaient de qui je parlais. Jean-Pierre Archambault a écrit un article il y a, je dirais, peut-être 2 mois, qui est sur l'enseignement de l'informatique, où il dit que le plus important, c'est de donner à nos enfants et aux futurs adultes des représentations mentales opérationnelles qui leur permettent d'appréhender la réalité, en particulier de ce qui se passe sur Internet, mais pas seulement. De comprendre, grosso modo, la différence entre un système d'exploitation et un logiciel, ce que c'est qu'un navigateur web, que Internet, ce n'est pas que le web, qu'un réseau, ça fonctionne avec des câbles, avec des répartiteurs, des choses qui permettent à des ordinateurs de parler entre eux de différentes manières, même si ça ne rentre pas forcément dans le détail, même si on ne leur enseigne pas forcément la programmation. Ça me paraît primordial. Ensuite, sur la programmation, pour le coup, là, je pense qu'il faut l'apprendre, et je pense qu'il faut l'apprendre à l'école primaire. Hein. Ce n'est pas la première fois que je dis ça publiquement. Je pense que c'est une matière qui est parfaitement spécifique dans la formation, dans la formation cognitive, dans le développement cognitif. Il y a des possibilités, des connexions qui peuvent se créer dans le cerveau qui sont spécifiques et qui ne sont pas exploitées par les autres disciplines scolaires. Et il y a par exemple un certain nombre d'études qui ont montré que des élèves en décrochage scolaire, et notamment dans les matières scientifiques, ont pu être récupérés, entre guillemets, par des enseignants qui faisaient des expériences justement leur enseignant la programmation. Alors, l'expérience la plus connue à laquelle je pense, qui est dans le livre de Simon Papert, Jaillissement de l'esprit, il avait enseigné le logo. Pourquoi la programmation, c'est intéressant? Parce que ça permet à l'élève déjà de ne pas être confronté à l'échec, mais à l'erreur, et que ça permet de faire de manière répétée jusqu'à arriver au résultat, tout le raisonnement entre synthèse, analyse, synthèse, analyse, synthèse, analyse, synthèse, parce que quand on fait un programme erroné, on a quand même un résultat, et que de ce résultat, on peut partir en arrière, c'est un peu le principe de reverse engineering, mais à un petit niveau, repartir en arrière pour comprendre où on s'est trompé et comment rectifier son erreur. Et donc, à la fois d'un point de vue de ne pas enfermer des enfants dans l'échec, ça me paraît important, parce qu'en informatique, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des erreurs, et que en plus, ça permet de... Voilà, d'un point de vue cognitif, je pense que ça donne des capacités de raisonnement qui ne sont actuellement données par aucune autre discipline scolaire.
Eh bien, merci pour cette très jolie introduction et très complète. C'est vrai, j'ai bien fait de te donner la parole en premier. Tu doutes que... Je ne pensais pas que tu irais aussi loin, mais c'est très très bien. Donc, qui veut réagir là-dessus? Benjamin Lancard.
Alors d'abord, j'avoue que je suis assez intéressé par ce que tu viens de dire sur le fait que l'informatique apporte des facultés supplémentaires mais je trouve ça, voilà, cognitive, et puis le fait que effectivement il n'y a pas d'échec mais il y a d'erreur, enfin je trouve ça très intéressant, et enfin voilà, donc du coup ça motive encore plus les trois grandes propositions de l'UMP sur le sujet de l'éducation et donc
alors vous verrez la vidéo, la tête de Sophie Duvauchel maintenant et avant. Bon, vous regarderez la vidéo. Là, je m'en garde.
Donc nous, ce qu'on veut, comme on considère qu'Internet c'est transversal dans la société, on veut qu'Internet soit transversal dans l'éducation. C'était une bonne intro quand même. Et donc la première chose, c'est que donc il faut bien, donc d'abord donc ce gouvernement a mis en place en 2008 le C2I2E. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est réadapter le B2I et le certificat informatique Internet, c'est plus simple à dire comme ça. Et donc, on veut le réadapter en tenant compte justement d'enjeux éthiques, sociétaux, environnementaux. Et donc, il y a notamment la question du logiciel libre. Donc, effectivement, on pourrait tout à fait faire en sorte que le logiciel libre apparaisse plus clairement dans ces deux formations.
Donc, vous voulez dire que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ne se reproduira pas? C'est-à-dire que s'il y a à nouveau un amendement qui en favorise effectivement le fait de parler de licence libre, de contenu créatif libre, etc., ce coup-ci, le gouvernement ne s'y reviendra pas.
C'est clairement dans les propositions de l'UMP. Donc, voilà, y a
dans les 145 propositions?
Ah oui, c'était clairement dans les propositions qu'on a
remises. Ah, je l'ai mal lu, alors.
Non, mais il faut désinguer le B2I, de toute façon, hein, d'abord. Donc, la première mesure, c'est de désinguer le B2I. Hein.
Nous, on veut le réadapter. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on veut former les enseignants donc à l'usage des technologies du numérique tout au long de leur carrière. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Et puis enfin, c'est nommer dans chaque établissement pardon, de second degré, un référent sur les questions de nouvelles technologies. Voilà les trois grandes propositions. Il y a notamment l'idée d'affecter 20% des crédits de formation de l'éducation nationale pour former à l'utilisation des outils les enseignants. Voilà.
Donc, comme vous parlez de la formation des enseignants, je suppose que vous serez choqué, comme beaucoup de gens ici, que lors du dernier salon de l'éducation, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs nationaux d'académie, nationaux, inspecteurs et que
de... L'éducation
nationale, voilà, je cherchais Jean-Pierre, donc IEN, a été convoqué par leur hiérarchie la veille du salon chez Microsoft pour une séance de, visiblement, on va appeler ça de sensibilisation. Flore Pellerin dit de lavage de cerveau, Sophie Duvauchel de... Tu vois quel terme ?
De formation.
De formation, voilà. Donc on peut... cette connivence, on va dire, très forte et historique quand même entre le ministère de l'Éducation nationale et Microsoft... comment vous comptez y mettre un terme, en fait, concrètement ?
Non, mais je, d'abord, non mais je pense que... honnêtement, je ne savais pas, donc je ne vais pas... vous inventer une réponse sur laquelle je n'ai pas réfléchi. Mais encore une fois, je pense que, comme je vous l'ai dit, l'ambiance du projet numérique de l'UMP et du projet qu'on souhaite pour les 5 années à venir, c'est effectivement de mettre le numérique et la société du numérique, c'est une bonne formule, et c'est une réalité, au cœur de notre action. Donc du coup, effectivement, bien sûr, ce genre de choses n'est pas censé, n'est pas quelque chose d'intelligent. Donc voilà, il faudra effectivement faire en sorte qu'on puisse avoir un maximum d'optionnalité ouverte aux acteurs. Et donc effectivement, c'est pas normal que les formations n'aient que lieu chez Microsoft. Et donc du coup, je pense que ce qu'ont fait les collectivités locales, qu'elles soient de gauche ou de droite au niveau des espaces numériques de travail, ce que doit faire le ministère avec les appels d'offres, voilà, je pense qu'effectivement tout ça doit permettre permettre plus de logiciels libres et en tout cas de permettre d'avoir des optionnalités ouvertes et donc d'éviter ce type d'épisode qui, à mon avis, est malheureux.
Jean-Baptiste Raffano ?
Oui, non, je voulais rebondir sur les propos par rapport à la place de l'informatique à l'école primaire. C'est-à-dire que je la vois très bien, cette place, au collège, au lycée, parce qu'effectivement, il faut sensibiliser les jeunes à l'usage de l'informatique et à comment manipuler l'ordinateur, comment aller sur Internet, comment comprendre l'information telle qu'elle se présente. Par contre, à l'école primaire, là où je suis parfaitement conscient que apprendre, par exemple, les lois booléennes, la récursivité, etc., sont des choses qui sont très intéressantes, puisqu'elles régissent notre monde autant que la multiplication ou l'addition. Donc ça, c'est des choses qui sont fondatrices, effectivement, et qui peuvent être ajoutées au programme de l'éducation primaire, les lois booléennes, le « et », le « ou », les choses comme ça. Ça, je le vois très bien. Par contre, la place de l'ordinateur dans la classe, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup plus mal, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai défi. C'est par rapport à l'éducation primaire, c'est bien que les élèves sortent du cycle primaire en ayant bien appris le français, bien appris les mathématiques et choses comme ça. Il y a un vrai effort à porter et en plus essayer et la place de l'ordinateur dans la classe d'école primaire, je la vois mal, en fait, parce que je trouve que c'est, et la place d'internet dans la classe, c'est l'école primaire, quelque chose qui nécessite beaucoup de concentration de la part des élèves, et j'ai du mal à voir quelle est la place de l'ordinateur. Voilà, ça c'était le premier point. Et le second point, je l'ai oublié, je crois, c'était oui, sur la place des opérations, effectivement, de communication auprès des élèves, comme on avait vu avec Internet plus sûr il y a quelques années, ou même quand j'étais enfant, je me souviens, on recevait des coffrets de Signal, la marque de dentifrice, des choses comme ça. Ce sont des choses qui, effectivement, pour moi, l'école est un endroit neutre et on doit effectivement empêcher tout ce genre d'initiative. Voilà.
Alors, avant de laisser répondre Sophie, peut-être que Frédéric No ou Fleur veulent intervenir ?
Oui ? Alors, moi, juste effectivement sur le B2I, je trouve que c'est un mauvais instrument, parce que c'est un instrument qui est essentiellement tourné sur les usages, alors que ce dont ont besoin, en tout cas les générations qui arrivent et qui sont déjà très familiarisées avec les usages dès le plus jeune âge, c'est effectivement de comprendre comment on traite l'information plus qu'il y a cette phrase, c'est de leur dire, au lieu de leur apprendre à surfer, il faut leur apprendre à faire des vagues. Donc l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à rentrer dans la programmation, dans le code, pour leur faire comprendre de quelle manière ils peuvent être manipulés ou ils peuvent où l'information est traitée. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et donc moi, je ne suis pas du tout opposée, bien au contraire, à l'idée de les former. Il y a des petits langages qui sont très très faciles de programmation, qui sont très très accessibles. Les enfants ont maintenant, dès le plus jeune âge, je crois qu'on en a toutes les deux l'expérience, l'habitude de... On n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est qu'une souris, ce que c'est qu'un clavier, ils savent déjà. Donc on peut rentrer dans des choses qui sont plus opérationnelles pour, pour leur créer une base de connaissances utile pour l'avenir. Et de manière plus générale sur l'éducation nationale, je pense que ce qui est important aussi, c'est effectivement d'avoir des profs bien formés. Un référentiel, c'est bien, un brevet, Internet et informatique, c'est bien, mais l'important, c'est vraiment d'avoir des enseignants qui soient bien formés, de mettre des moyens dans la formation et dans l'équipement. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, il faut assurer via l'école une égalité d'accès à l'information, à Internet, aux nouvelles sources d'information et d'accès à la culture. Donc, je pense que c'est pas mal de permettre aux enfants qui n'ont pas forcément les moyens chez eux de pouvoir avoir à l'école un accès à Internet.
Ben, je veux dire plus un, comme tu as dit tout à l'heure. Par rapport à l'idée de l'informatique comme une matière, il y a des grands débats là-dessus et on a quand même une position qui est, pas au niveau de la terminale quand ça devient une spécialisation, mais avant. Donc, imaginons par exemple commencer en seconde, peut-être pas en primaire, je te rejoins un petit peu. L'approche qu'on proposerait serait plus pluridisciplinaire, à essayer de voir comment on peut découvrir le fonctionnement de l'informatique et un peu cette idée de bidouillabilité, de comment ça fonctionne derrière ces briques Lego dans différentes matières, et de relier la technologie avec des petites plaques Arduino et de voir comment ça se programme. De voir, par exemple, quand tu parles de l'article 9 bis sur les questions de faire la pub d'Adopi, peut-être que ça serait plus intéressant de traiter les questions de création numérique dans les disciplines artistiques. D'avoir une approche vraiment transverse, concrète, de l'usage de l'informatique au cœur des matières. Pardon. Juste. Il y a un grand sujet, enfin, je crois que personne n'en a parlé, mais je pense qu'on doit tous être d'accord, mais des associations comme Césamat, enfin, le nom n'a pas été cité, c'est quelque chose quand même qui est parti, ils font des ressources libres pour tout ce qui est enseignement des mathématiques. Tout est disponible sur Internet, c'est très intéressant, ils font même des manuels qui sont édités et qui correspondent aux critères de l'éducation nationale. À la base, ça, c'est 5 personnes, je crois, qui se sont mises ensemble de leur propre initiative. Et on parlait tout à l'heure des collectivités locales et de quels acteurs, quels acteurs pour populariser le libre dans tout ce qui est administration, etc. C'est pareil pour l'éducation. En fait, il faut qu'il y ait une aide concrète de toutes ces associations, et je pense y compris, alors c'est pas pour faire du faillotage basique, mais de l'April et de la DULAC et de toutes ces associations pour pousser ça. Et je voulais le dire tout à l'heure, mais quand on voit, alors je ressors complètement du sujet, je me permets. Juste que l'État s'est désengagé beaucoup de tout ce qui est investissement pour l'aménagement du territoire, par exemple sur ce qui est la fibre optique. L'État a investi 1 milliard, alors que sur les licences 4G, il a récupéré 4 milliards. 3. Et du coup, on pourrait avoir quand même dans les quantités d'argent qui sont investis dans le développement de l'aménagement du territoire en numérique, on pourrait avoir un pourcentage qui revienne à l'accompagnement du libre et de tous les acteurs du libre et des projets comme ça.
Alors, Frédéric, sur la première chose que tu as dit, je pense que tu fais une grave erreur, puisque vouloir voir l'informatique de manière transversale, c'est pas la même chose. Je veux dire, il y a l'informatique et il y a les usages de l'informatique et notamment l'accès à l'information. Mais c'est comme si on... Mais si, parce que je veux dire... Par exemple, de savoir si on doit aller sensibiliser à faire attention à l'information qu'on peut trouver sur Internet. L'informatique, c'est pas que Internet. En tout cas, tu as parlé d'une transversalité. Et c'est ça qui me pose un problème. Parce que
C'est Benjamin Lancaire qui a parlé de transversalité.
Non, de transdisciplinarité, toi, t'as dit, dans toutes les matières. Et c'est ça qui me pose un problème.
Il y a débat, visiblement.
Voilà, l'informatique, c'est pas que Internet. Internet, quelque part, c'est le bout de la chaîne. Bon, moi, en tant que prof d'anglais, je fais presque toujours un chapitre, et je viens de le commencer, là, bon, sur ce qu'on peut faire sur Internet. En gros, c'est presque un chapitre d'éducation civique. Hein, mais je commence quand même par leur demander, alors, dans un ordinateur, il y a quoi ? Bon, alors, il y a des classes où j'essaye même pas. Il y en a une, j'ai essayé. Bon, il y en avait un qui était le geek de la classe. La majorité, ils savent même pas ce que c'est un système d'exploitation. Ils savent même pas ce que c'est... Le mot logiciel a du mal à sortir. Donc, c'est des élèves de seconde, hein, des élèves qui ont 15 ans, qui passent plusieurs heures sur Internet tous les jours. Quand on leur demande, alors une fois que votre ordinateur est allumé, comment vous faites pour aller sur Internet, je tape Google, etc. Donc, quand on dit enseigner, enfin sensibiliser les élèves, faire un cours d'éducation civique sur Internet, ils s'y connaîtront mieux que le prof, je pense que c'est totalement faux, déjà, pour commencer. Mais il y a, d'une part, effectivement, les parents, normalement, enseignent à leurs parents comment traverser la rue de façon sûre. Mais il y a aussi, à l'école, la prévention routière. Là, on a le problème, c'est que non seulement les élèves ont besoin de savoir traverser la rue numérique, mais en plus, leurs parents, à 99% des cas, ne l'auront pas appris. Donc, l'éducation, non seulement elle doit faire cette... c'est pas de la prévention routière, hein, parce qu'il n'y a pas non plus que des dangers sur Internet, il y a plein de choses bien, et il faut leur apprendre non seulement à se méfier de ce qui n'est pas bien, mais à exploiter ce qui est bien. L'éducation nationale a en plus le rôle de remplacer ce que les parents n'ont en général pas les moyens de faire, puisque c'est des usages qu'eux-mêmes ne connaissent pas forcément. Mais ça, c'est juste une chose. Mais enseigner l'informatique à l'école, ça permet déjà de former des citoyens qui vont être capables de prendre des décisions concernant Internet. Je veux dire, si aujourd'hui, on fait un référendum sur ACTA en France, combien il y aura de gens qui auront les billes pour véritablement donner un avis éclairé là-dessus ? Un pourcentage complètement ridicule. Et il n'est pas normal qu'on ne donne pas ça à nos enfants. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a des problèmes d'industrialisation de la France, de désindustrialisation de la France. Et en plus, y a des cas où, quelque part, y a des industries, c'est bien qu'elles disparaissent, entre guillemets, soit parce qu'elles sont polluantes, soit parce que c'est des métiers totalement aliénants et que c'est bien, si ces personnes-là, on peut trouver un moyen de leur faire faire autre chose, parce que ce qu'elles faisaient avant, dans bien des cas, ça leur donnait un salaire. Donc évidemment que c'était mieux que le chômage, mais c'est quand même pas mieux que de pouvoir faire d'autres choses. Bon. Et si on veut réindustrialiser la France, il faut absolument qu'on ait des compétences en informatique. Et commencer l'informatique après le bac, je suis désolée, mais c'est très tard. Hein. Et commencer en seconde, c'est trop tard aussi.
Hein. Alors, merci Sophie, on est un poil en retard. Je vais quand même prendre une question, notamment parce qu'il y a Jean-Pierre Archambault et une autre question là-bas. Et ensuite, on passera au dernier sujet pour tenir les délais.
Oui, faire un chambon de rapidement, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sous-estimation et un paradoxe. Je veux dire, l'informatique, à l'heure actuelle, c'est 30% de la R&D de par le monde. Pour quelle raison, il y a 100 ans, les sciences physiques sont-elles devenues disciplines scolaires ? Tout simplement parce que les sciences physiques sous-tendaient les réalisations de la société industrielle. Aujourd'hui, le monde devient numérique. Ça a nécessairement des implications en termes de culture générale scolaire. Il y a eu, il y a 2-3 ans, le SNRI, Stratégie Nationale Recherche et Innovation. Le groupe informatique et mathématique a fait le constat d'un niveau non optimal des ingénieurs et chercheurs non informaticiens en informatique, comparativement à leur niveau en mathématiques ou en sciences physiques. Mais les ingénieurs, ils ont commencé à faire des mathématiques à l'âge de 3 ans. Ils commencent à faire de l'informatique. Donc là, il y a véritablement, je veux dire, un enjeu. Je veux dire, aujourd'hui, l'informatique, c'est un des grands domaines de la science moderne qui est absent du système scolaire en tant que tel. Je veux dire, c'est une situation qui ne peut plus durer. Alors, moi, je suis surpris un petit peu que M. Lancard ne mettre pas ça en avant, parce que c'est une bonne chose qu'a fait le gouvernement actuel, qui a été de rétablir un enseignement de l'informatique. Mais c'est un premier pas, mais qui doit être suivi d'autres pas. C'est uniquement optionnel, de spécialité en terminale S. Il faut que ça devienne obligatoire. Il n'y a pas que les scientifiques qui sont concernés, toutes les professions. Donc, moi, je repose la question, quel est le deuxième pas et quel est le troisième pas?
Alors, si quelqu'un veut réagir très rapidement.
parce que ce qu'on n'a pas abordé, c'est aussi l'environnement à l'école. Enfin, on l'a un peu abordé par rapport à l'équipement, mais il y a de manière plus générale, il y a cette, enfin, l'éducation, c'est aussi l'idée que, au fond, quand l'élève rentre chez lui le soir, il peut retrouver son cours sur Internet. Il peut, voilà. Ça, on n'en a pas trop parlé. Moi, il y a un député à l'UMP qui s'appelle Jean-Michel Fourgous qui a énormément travaillé sur ces questions. Moi, je voudrais vous demander si vous considérez que ça, le fait que on puisse justement davantage prendre ses cours sur un ordinateur, retrouver les cours le soir, pouvoir envoyer ses travaux scolaires à son prof directement, est-ce que ça aussi vous considérez que c'est ou que c'est un peu plus mineur, alors, que c'est un peu gadget?
Très rapidement, il y a dans l'éducation des statuts éducatifs de l'informatique qui sont complètement différents et qui sont tous nécessaires. Le fait que ça soit un outil pédagogique, c'est bien. Le fait que les disciplines, par exemple, les disciplines des enseignements techniques et professionnels aient profondément évolué de par l'informatique, c'est une nécessité que le renseignement en tienne compte. Mais ça n'a rien à voir avec la première chose, et toutes les deux sont indispensables. Le fait que ça soit un outil de travail de l'enseignant, un outil de la collectivité éducative, c'est tout aussi indispensable, mais c'est encore différent. Et ça doit être, par ailleurs, en tant que tel, une discipline scolaire, comme les mathématiques. Les mathématiques sont partout. Les mathématiques sont un outil pour toutes les autres disciplines. Mais c'est justement parce qu'elles sont partout qu'elles sont enseignées en tant que telles. Et ça doit être pareil pour l'informatique. Donc, d'accord. Mais...
Alors, merci Jean-Pierre. Et en plus, ce que propose Benjamin Lancard, finalement, le logiciel libre, c'est la réponse la plus facile pour retrouver un environnement à l'école et chez soi, indépendamment en fait, de n'importe quel choix technologique ou autre, et à moindre coût, en fait. Bon. Alors, comme on est... Ah, je n'avais pas vu, parce que le micro avait bougé. Vas-y.
Non, c'est pas une question, en fait, c'est plutôt une remarque pour défendre l'informatique en primaire. C'est pour dire que l'informatique, c'est une grammaire. Moi, j'ai eu la chance de baigner là-dedans très jeune.
Pardon ?
Ah, d'accord. Et donc, j'ai eu la chance de baigner là-dedans très jeune. Mais c'est vraiment une grammaire. C'est-à-dire que quand vous apprenez l'anglais très tard dans votre vie, ce ne sera jamais intériorisé. Voilà, c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est lors de la raison. Moi, par exemple, l'informatique, quand j'ai un problème... J'ai des automatismes qui me permettent tout de suite de le résoudre face à quelque chose que je ne connais pas du tout, du hardware ou dans le software. Et vraiment, c'est pour ça qu'il faut le défendre, parce que en tant que citoyen, on va devoir forcément traverser des... Enfin, Internet va devenir de plus en plus grand, et on aura des dangers, mais aussi de grandes vertus. Et l'économie numérique, c'est l'avenir, mais il y aura aussi de grands dangers. Et on peut notamment citer, par exemple, il suffit à n'importe qui ici ce soir de taper le mot « chat » sur Internet, vous n'allez pas être déçu des résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ça devienne quelque chose de, voilà, de l'ordre de la grammaire.
Merci pour cette intervention. Donc, on va passer à l'avant-dernier thème, mais le dernier sera très rapide, ne vous inquiétez pas. Donc, un thème qui intéresse beaucoup la cantine, évidemment, c'est l'entreprise, l'innovation. Donc, c'est la question assez ouverte de la politique d'innovation, des modèles économiques, et puis une question assez précise quand même de la question des brevets logiciels qui sont potentiellement de retour via le projet de brevet unitaire au niveau en Europe. Donc, peut-être Jean-Baptiste, Raffano ?
Alors, sur les brevets logiciels, notre position est très claire. Il y a une convention au niveau de l'Europe qui existe depuis 1973 qui dit tout simplement que les logiciels ne sont pas brevetables en tant que tels. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'en discutais tout à l'heure avec vous, avec
Jeanne.
Oui, effectivement, aujourd'hui, l'Office européen du brevet lui-même contourne cette convention. Et elle m'a dit, chose que je ne savais pas, que les salariés de l'Office européen du brevet s'étaient mis en grève il y a quelques années pour s'opposer à leur direction. Donc effectivement, aujourd'hui, le vrai problème, c'est simplement que la convention n'est pas appliquée. Notre réponse à ça, c'est simplement qu'on fera en sorte que l'Office européen du brevet et l'INPI en France appliquent tout simplement cette convention sur la brevetabilité des logiciels. À titre personnel, je considère qu'un logiciel en tant que tel n'est pas brevetable, tout simplement, de par son aspect technique. Le brevet, originellement, porte bien sur des processus manufacturiers, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un résultat physique. Et ça se comprenait parce que, effectivement, lorsque quelqu'un était capable de reproduire physiquement un objet, effectivement, il pouvait vendre le même produit facilement. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la compétitivité d'un logiciel se fasse sur son code. Elle se fait sur le service qu'apporte l'entreprise autour, elle se fait sur l'écosystème qui se crée, etc., sur l'aspect plateforme et écosystème. Voilà. Bon, et sur le second point, c'était le...
L'innovation.
Oui, bah, l'innovation, aujourd'hui... Moi, mon idée, elle est simple. Moi, je vis pas dans le monde informatique, je suis ingénieur en bâtiment. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste et je travaille dans un bureau d'études bâtiment. Aujourd'hui, très simplement, très concrètement, l'informatique, jusqu'à aujourd'hui, a servi à optimiser nos méthodes de travail. C'est-à-dire qu'avant, on dessinait des plans sur du papier avec une règle. Aujourd'hui, on dessine le plan sur un ordinateur. Donc, ça a permis de rendre plus efficaces nos méthodes de travail. Aujourd'hui, on voit que l'on arrive au moment où non seulement on a rendu plus efficace nos méthodes, mais on remet en question nos méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bientôt, les plans, on ne les dessinera plus comme avant. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à dessiner des plans sur papier, sur un plan, comme on le dessinait il y a 30 ans. Maintenant, on remet en question nos méthodes. Et c'est là, aujourd'hui, où on rentre sur un vrai nouveau continent, entre guillemets, au niveau de l'informatique en tant qu'économie, l'économie numérique, c'est que l'outil informatique, et maintenant que tout le monde a pris conscience de sa puissance, va révolutionner toutes nos méthodes de travail, quel que soit notre secteur, quel que soit notre métier. Il a commencé à le faire avec le secteur informatique lui-même. Et de même, moi, justement, je suis en train d'importer des technologies comme le bug tracking, etc., qui sont très utilisées par les boîtes d'informatique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est très utile dans le bâtiment, très bêtement, tout simplement. Donc, c'est des choses qui évoluent. Et ce qui me désole un peu, c'est que l'esprit général en France soit effectivement à essayer de traquer un peu l'internaute, d'être dans une position défensive par rapport à l'économie numérique et à la culture numérique. Et ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me désole franchement, puisque je trouve qu'on est en train de passer à côté vraiment de quelque chose sur lequel la France, qui a toujours été en pointe sur sur des aspects comme ça de logique, de mathématiques, puisque finalement, ce monde est très lié à la logique. Aujourd'hui, la France est en train de prendre un peu de retard là-dessus, et ça me désole franchement. Voilà.
Alors, avant de passer la parole aux gens de gauche, parce que, en fait, vous, votre position est assez connue, étant donné que vous êtes quand même été au front contre la directive européenne sur les brevets il y a quelques années. Donc, je vais quand même vous laisser la parole. Mais je pense que le point de vue de Benjamin Lancard est très attendu, parce qu'en 2007, dans sa réponse au questionnaire candidat.fr, l'April ensuite avait titré Nicolas Sarkozy entre Internet chinois et brevets logiciels. Donc, on parlera d'Internet chinois peut-être après, mais on va déjà commencer par brevets logiciels. Donc, dans sa réponse, il y avait un soutien très clair aux brevets logiciels. Donc, la seule question qu'on a envie de vous poser, est-ce que ce soutien existe encore ? Ou est-ce que finalement les évolutions américaines et puis les réflexions internes ont fait évoluer sur ce dossier-là des brevets logiciels ?
Non, mais nous considérons qu'il y a pas de, enfin, qu'il peut y avoir une cohabitation entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire. Voilà, donc c'est notre vision des choses.
C'était pas vraiment mes sujets, donc, c'était pas vraiment ma question, mais c'est votre réponse.
Donc sans brevet alors.
Donc sans brevet, comme dit Sophie Duvauchel, parce que la vraie coexistence, on va dire entre guillemets pacifique, se ferait sans brevet logiciel.
On n'a pas, en tout cas dans le projet de l'UMP, il n'y a pas aujourd'hui l'idée de revenir sur le système actuel de brevets.
D'accord. Alors, de côté à gauche, qui veut intervenir ? Qui veut commencer ? Fred ?
Donc, effectivement, nous, ça fait très longtemps qu'on se bat contre les brevets, pas uniquement contre le brevet logiciel, mais parce que depuis pas mal d'années maintenant, le système des brevets est arrivé à bout de souffle parce qu'il est perverti de sa fonction initiale qui était de permettre l'innovation en protégeant le créateur. Maintenant, on voit, alors je crois que le dernier gag que j'ai lu, c'est le dépôt de brevet sur le glissé pour ouvrir le téléphone portable, donc, enfin, sur les tactiles. Là. Donc ça, c'est assez formidable. Il y a des tas de boîtes qui ne vivent que par des portefeuilles de brevets. En fait, ils ne fabriquent rien, ils ne font rien que de gérer des portefeuilles de brevets et vivent de ça. Et les organismes qui sont chargés de délivrer les brevets, en fait, se retrouvent en position de vendeurs de brevets, en fait, aux gens qui déposent les brevets. Et de fait, ils se sentent pas toujours obligés de respecter les règles, et ils acceptent à peu près de n'importe quel brevet à partir du moment où c'est des gros clients qui leur demandent. Donc il faut qu'on sorte de ça absolument et très rapidement, parce que c'est un frein à l'innovation mais conséquent. Enfin, alors, du côté écolo, il faut bien se rendre compte qu'on a le problème sur les semences, par exemple. On a le problème sur les médicaments. On a le problème sur à peu près tout ce qui est innovation et qui arrive dans les sujets mondiaux aujourd'hui. Donc on est vraiment, enfin nous ça fait 20-30 ans qu'on dit qu'on est dans un moment de changement de paradigme, de société, de génération, où on doit, où on part sur des idées de coopération, d'ouverture, de transparence, de bien commun. Et si on brevette tout, on va pas s'en sortir. Et dans les solutions très un peu hype en ce moment, mais qui sont des vraies solutions, il y a sur l'innovation, il y a la question de l'open innovation. Sur l'innovation libre, je ne sais pas si vous avez vu des choses comme ça, où c'est sur des grandes questions, par exemple sur le changement climatique, où il faut que tout le monde s'y mette, et pour le coup ça va être transdisciplinaire. Il y a des concours qui sont lancés par des organismes qui disent, voilà, si vous arrivez à résoudre telle problématique,
que nous n'arrive pas à résoudre dans notre discipline. Il y a une prime qui sera donnée à la personne qui trouvera la solution. Et en revanche, la solution trouvée sera mondialement libre et utilisable pour tout le monde. Donc voilà. Et j'avais un autre point. Ouais, alors c'est un point un peu moins fun, mais dans un truc très très concret, il y a la question du droit à l'interopérabilité, qui en fait doit être affirmé, qui n'existe pas aujourd'hui, et qui doit être affirmé parce que c'est aussi un frein à l'innovation. Conséquent. Et un truc juste, alors je vais essayer de m'engager un tout petit peu. On a dans le projet, là on est à cheval entre le moment où le parti Europe Écologie a décidé son projet, dans lequel il est question d'un Small Business Act. Donc en gros, le Small Business Act, c'est un crédit impôt recherche. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il soit conditionnalisé. Donc que ce crédit soit attribué notamment à ce qui concerne des recherches sous conditions écolo et sociales. Ce qu'on essaie, nous, de pousser du côté numérique en interne, et on pense bien y arriver dans le projet qui va sortir pour Eva Joly, c'est qu'il y ait aussi une conditionnalité sur l'ouverture des solutions proposées, enfin de la recherche.
Oui, alors sur les brevets logiciels, nous on est complètement contre. En fait, on est contre la brevetabilité de tout ce qui n'est pas effectivement un objet concret. Donc c'est valable pour le vivant, c'est valable pour les molécules, c'est valable aussi pour un certain nombre de processus qui ne sont pas nécessairement mis en œuvre de façon matérielle. Tout ça, ça doit être brevetable. Et s'il y a des brevets internationaux ou des brevets européens qui ont été déposés là-dessus, le Front de Gauche, s'il arrive au pouvoir, n'appliquera pas les brevets qui auraient éventuellement été donnés sur les logiciels et un certain nombre de choses. Et pourquoi ? Parce que si on a le droit de breveter un logiciel qui, je sais pas moi, trie les députés, par exemple, en prenant les données de regard citoyen en fonction de je sais pas quoi, là, on peut se dire, à la limite, c'est un gros truc, c'est pas très grave. Mais en vérité, si on peut breveter la sous-routine qui dit qu'on prend un nombre de données d'un côté, un nombre de données de l'autre, et puis on obtient à la fin quoi ? La somme des deux. Ah bah zut, alors on a breveté l'addition. On peut pas s'arrêter. Je veux dire, on peut pas borner la brevetabilité du logiciel à quelque chose qui ne revient pas à être une opération mentale élémentaire. Parce qu'un logiciel, un ordinateur, c'est quelque chose qui fonctionne d'une façon qui ressemble beaucoup à celle d'un cerveau, à celui d'un cerveau, le fonctionnement d'un cerveau. Donc c'est pas possible de borner la brevetabilité à quelque chose qui ne rentre pas dans je veux dire, des choses qui deviendraient complètement, enfin, je veux dire, je trouve même pas d'adjectif, ce serait pas possible quoi.
Juste en deux mots, parce qu'effectivement on est relativement d'accord pratiquement tous sur le fait que le logiciel ne doit pas être brevetable pour des raisons qui sont liées effectivement parce que ça constitue un frein à l'innovation et pour des raisons liées aussi au fait que ça ne correspond pas à un processus physique, donc effectivement ça ne se justifie pas et surtout parce que, comme ça a été rappelé tout à l'heure, l'Office européen des brevets a pris quelques libertés dans son interprétation de la directive et donc a tordu un petit peu le texte pour pouvoir délivrer des brevets logiciels, ce qui ne correspond pas à l'esprit initial du texte. Donc nous on est contre.
Benjamin Lancard, très rapidement.
Non, très vite. Moi je ne suis pas un ayatollah du brevet, mais je dis juste qu'il y a des entreprises qui vivent et qui gagnent de l'argent et qui emploient des chercheurs qu'ils rémunèrent avec en brevetant. Donc il ne faut pas balayer comme ça d'un revers de la main. Il y a une réalité. Et donc le logiciel propriétaire, c'est aussi des emplois, c'est aussi de l'investissement et c'est aussi, je pense, pour les créateurs qui sont dans cette salle, une nécessité. Je dis juste trois éléments de la politique de l'économie numérique et de la manière dont on veut le relancer, enfin, et faire de l'économie numérique la manière dont on va chercher les points de croissance en plus à la sortie de la crise. Première idée, c'est vraiment tout ce qui concerne l'aide aux jeunes entreprises qui vont se développer avec un Small Business Act, c'est dans le projet de l'UMP. Alors voilà, c'est bizarre qu'ils reprennent la terminologie des Verts, mais bon, en tout cas c'est le cas, avec donc cette idée notamment d'avoir d'orienter la commande publique également de maintenir les dispositifs de crédit impôt recherche de capital risque, parce que pour nous, ça nous paraît très important. Deuxième chose, c'est l'idée d'avoir des formations professionnelles sur notamment le déploiement de la fibre optique. Ça, c'est aussi un élément, un vivier de croissance et d'emploi pour nous. Troisièmement, c'est la question d'essayer de rapprocher via des clusters, donc le milieu des chercheurs, des enseignants, avec les personnes qui vont créer des entreprises. Et puis quatrièmement, c'est tout ce qui est la simplification administrative. C'est pas normal que des jeunes entreprises perdent énormément de temps pour poser des dossiers différents, pour des concours différents, alors qu'on sait bien qu'on pourrait mutualiser ça. Voilà. Donc, et enfin, dernier point, et ce sera notamment dans la réflexion sur la modification d'OSEO, mais tout ce qui peut permettre d'aider les fonds d'amorçage. Voilà les quelques propositions qu'on a.
Alors, comme certains de nos intervenants ont des contraintes diverses et variées, on va prendre une dernière question, une intervention, puis il aura donné la parole... Non, je suis désolé, Fred, on va donner la parole au président de l'April, et qui s'est auto-délinquant des RM il y a quelques années...
Bon, là, je vais parler un peu d'innovation. Je me réjouis que l'UMP choisisse de pousser le Small Business Act et que c'est un peu dommage que Frédéric Lefebvre l'ait refusé récemment à l'Assemblée, il me semble, il y a juste quelques mois. On a fait une étude avec l'Institut Harris Interactive il y a quelques mois, il y a deux ans même maintenant, où on a découvert que toutes les entreprises qui innovent en France en informatique, on en a interrogé près de 1000, 90% d'entre elles basaient leur innovation sur du logiciel libre. Donc on a pu comme ça trouver une source d'innovation assez incroyable. Je voulais savoir si dans vos programmes vous imaginiez favoriser cette innovation, favoriser le logiciel libre, vu qu'il favorise l'innovation en informatique, que ce soit des innovations en logiciel propriétaire ou en logiciel libre.
Alors une réponse rapide pour ceux qui veulent répondre avant qu'on conclue.
Moi, je voudrais juste apprendre à Benjamin Lancœur qu'il existe des entreprises qui ont des salariés et qui font quand même du logiciel libre. Ensuite, favoriser le logiciel libre dans les entreprises, à part de mettre en place des dispositions favorables dans les marchés publics, ça me paraît difficile puisque les entreprises font comme elles en ont envie. Si évidemment elles décident de baser leur innovation sur du logiciel libre, elles vont le faire. Je pense que la meilleure garantie, c'est de s'opposer à la brevetabilité tout d'abord. Oui, mais nous sommes pour que l'administration et les différents organismes publics utilisent des logiciels libres, fassent appel au tissu économique libre. Donc ça pourrait faire partie de cette mise en valeur.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou...
Bien sûr, il y a ce sujet du logiciel libre, mais déjà nous, dans le projet qu'on a, on a déjà l'objectif qu'ils aient tous un site internet. Donc il y a déjà cette étape-là. Non mais c'est vrai, parce que c'est comme ça aussi la vérité. Donc non mais c'est ça, parce que... Bah non, mais en tout cas, y a le pourcentage d'entreprises qui ont un site internet en France est très inférieur à la moyenne des autres pays européens. Donc aujourd'hui, c'est un sur.
Par contre, il faut qu'ils fassent attention à leur connexion Wi-Fi pour ne pas se la faire couper par l'Adopi quand même. Alors ceci, quand on arrive vraiment au terme et qu'on a quand même la cantine va devoir fermer à un moment, on va donc terminer ce qui est vraiment un premier débat, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Donc le questionnaire candidat.fr sur la présidentielle est en cours de finalisation. D'ici la prochaine quinzaine, le questionnaire sera envoyé, finalisé d'abord et envoyé à l'ensemble des équipes de campagne. Alors, ce qui tombe bien ici, c'est que tous les candidats que vous représentiez ou potentiellement en 2007 avaient répondu au questionnaire, que ce soit Marie-Georges Buffet, Dominique Voynet, Ségolène Royal, Nicolas Dupont-Aignan à l'origine, peut-être Nicolas Sarkozy qui sera de nouveau candidat. Donc on espère à nouveau avoir les réponses. Et peut-être ce coup-ci des réponses un peu plus développées pour certains candidats. Donc je voulais remercier la cantine, et notamment Sandrine Murcia, la présidente de Silicon Sentier, et Paul Richardet, je ne sais pas où il se cache, de nous accueillir gracieusement ici. Non, elle n'est pas là, elle est partie. Je voulais faire deux petits coucou, parce qu'on a beaucoup parlé de brevets, à Jean-Paul Smets, qui a été l'un des premiers à se battre sur les brevets logiciels il y a très longtemps, en 99, qui nous a alertés. Et un petit coucou aussi à l'actuel activiste du anti-brevet, qui est Jibus, qui est actuellement en train de se reposer, qui n'a pas pu venir ce soir. Et puis, un dernier remerciement à quelqu'un qui a fait 6 mois de stage à l'April juridique, qui a beaucoup travaillé sur les cahiers candidats.fr, et qui termine son stage en fait à la fin de la semaine, avant d'enchaîner par... un travail au niveau avocat, donc Marie Duponchel qui est là-bas. Merci à toi. Et bien sûr, merci à tous les intervenants d'être venus. Donc, l'audio et la vidéo seront mises en ligne très bientôt. Et puis, on vous attend... Pardon ? Si, la vidéo sera mise en ligne. Vidéo format ouvert, évidemment. On va la convertir. Et bien sûr, on attend les réponses des questionnaires. Pour les législatives, c'est les pactes, effectivement. S'il y a des candidats qui sont là, ils peuvent déjà signer. Merci à vous.